Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui...
Exactement, avec en plus des...
Sans oublier une intervention de...
Au fait, je voudrais saluer mon grand...
Et avec la participation de...
Je trouve que c'est pas mal de parler en même temps que le...
J'aime bien l'espèce de dynamique que ça apporte à la...
Oui, parce que quelque part, tu vois, ça me rapproche un petit peu du... Avec le soupçon de...
Absolument nécessaire à la... Ouais.
Bonjour et bienvenue au... Nous allons aujourd'hui parler énormément de... Et pour ce faire, mes deux comparses habituels m'accompagnent, et donc nous pouvons saluer à ma droite...
Merci, bonjour à tous.
Et à ma gauche... Voilà. Nous allons faire une émission un peu spéciale, une émission à trous. On s'est dit qu'on disait un peu toujours la même chose dans nos... Et que donc, quelque part, pour éviter qu'on se... Ben, ce sera à vous de dire les choses à notre... Mais ça, comme ça risque d'être vraiment très très... Au bout de quelques temps, on va peut-être finir par dire les choses en...
Merci de votre patience.
Au programme de cette émission, nous allons revenir au
la
festival
drogue, c'est moche.
Des carancs et des bulles. Nous allons avoir l'équipe chargée de, ça y est, je sais même plus, c'est de l'autre côté, la programmation. Avec Max, G et Sophie qui vont nous expliquer comment ça s'est passé.
Max et Sophie, on nous lance comme un défi.
Notre express qui sera un express consacré aux rééditions, des choses qu'on a déjà chroniquées dans le One A Club qui ont été rééditées il y a peu.
Donc c'est quand même qu'on a, on lit tellement de BD que maintenant on vous parle même des rééditions, des BD qu'on a déjà chroniquées.
Comme ça vous pourrez aller voir dans nos vieilles émissions, les réécouter. T'as vu un
vous
peu
imaginez comme, quand on... même, comme on est fort en marketing.
C'est le placement de produit. Bon, on a juste oublié de mettre un prix, hein. Mais sinon on est vachement fort.
Putain, mais avec ces accents à la con, on va avoir des procès, tu vois. Et donc...
Non mais je refais tonton en fait.
Ouais. Et donc,
Mais l'avantage, c'est qu'avec ses origines, il peut quasiment faire tous les accents, lui. Hein.
Ah, moi, j'ai plein d'origines, je fais ce que je veux. Je ne peux pas être raciste.
Non, mais lui, c'est United Color of Benetton.
C'est
hein.
Juste pas possible.
D'accord. Ok. Ça doit être étrange.
Quand t'es napolitain, tu peux tout faire. Ouais, c'est famille en transit, en fait.
Donc,
Et le transit, c'est important.
On continuera sur nos chroniques. Une splash page consacré à Badass avec une interview de Bruno Bessadi. On parlera aussi de HeroCorp, la bande dessinée, et de ces bandes dessinées qui se donnent vraiment, enfin, qui veulent faire du vrai comics, quoi, je trouve plus le mot, tu vois. Il va falloir compléter les gens, hein, parce que je trouve plus les mots.
Qui veulent faire du vrai comics. Parce qu'il y a du faux. Du comics à la française!
Ouais, du comics à la française. Du comic à la française qui veulent faire de la bande dessinée à l'américaine, quoi, mais en France. Et on continuera avec encore du online, un hors-sujet où mes deux acolytes vous parleront de leur passion commune pour
laisse cette main.
Le lancement actif. Et enfin, ce sera fini. Et donc,
enfin, ce sera fini. Enfin, oui, parce que si commence à trop m'approcher, je préfère que ce soit fini.
Et donc, on commence de suite avec les co-organisateurs du festival des Calanques et des Bulles.
Nous sommes avec le pôle de programmation du Festival des Calanques et des Bulles, le pôle Hilar, avec Maxime en deuxième année, Sophie et G, voilà, ou Géraldine au choix. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le pôle programmation, dit comme ça, on imagine que c'est vous qui allez décider tout ce qui va se passer pendant le festival. Est-ce que c'est ça ou est-ce que j'exagère beaucoup?
Alors, non, en partie non. Alors, en fait, nous, le pôle programmation, on est trois et on s'occupe de tout ce qui est animation, et auteur pendant le festival, donc la vie du festival sur les deux jours. Mais il ne faut pas oublier les autres pôles qui sont là en soutien et qui sont indispensables pour le festival. Donc en fait, nous, on s'occupe d'abord d'inviter les auteurs, donc d'avoir une liste intéressante et complète et qui respecte notre programmation. Ensuite, on met en place toutes les animations, c'est-à-dire toutes les conférences et tout ce qui va se passer, tout ce qui va donner de la vie au festival. Et donc voilà, c'est notre mission pour cette année.
Combien est-ce que vous contactez d'auteurs en tout et combien répondent oui sur le nombre que vous contactez? Il y a un pourcentage, une idée comme ça.
Moi, je pense qu'on a dû contacter en tout peut-être une cinquantaine d'auteurs, peut-être un peu moins. Mais la plupart répondent Et ben, il y en a quand même la moitié qui ont répondu positivement. Donc globalement, on choisit quand même beaucoup notre liste. En fait, on est assez libre de sélectionner qui on veut. Et par rapport donc au thème de cette année, bon, bien sûr, on ne pouvait pas rattacher tous les auteurs donc au thème qui, je rappelle, est le 9e art comme média d'engagement. Mais on a quand même invité des auteurs qui font partie du projet 17 mai. Ouais. On a déjà parlé dans les éditions précédentes. Notamment Pochep, qui est initiateur du projet 17 mai, Ibi, Anis, Nalin, entre autres.
Donc en gros, là tu me dis que la moitié répondent oui, c'est-à-dire qu'en gros, d'un point de vue comment dire, protocolaire, comment vous faites, ça vous dirait de venir à un festival et s'ils répondent oui, au bout d'un moment, ah, mais en fait non, on a préféré machin.
non, pas du tout, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'on était assez libre de choisir qui on voulait, dans le sens où on ne va pas se forcer à inviter des auteurs bankable, par exemple, pour ramener du monde. Enfin, on essaye d'inviter les auteurs dont on aime le travail, et après, on essaie d'avoir une programmation aussi éclectique, en fait, qui est un peu tout, de la BD indépendante, de l'heroic fantasy, enfin, du grand public, et pour ce qui est des réponses, enfin, en fait, quand on nous dit oui, nous on les veut, quoi. Donc on va pas leur dire en fait non. Voilà.
Justement, il y a toutes les problématiques budgétaires qui vont venir derrière. Les auteurs, vous les contactez, vous savez pas forcément d'où ils viennent, où ils habitent, etc. J'imagine que vous pouvez avoir envie qu'un auteur vienne pour vous rendre compte que, je sais pas, il habite en Afrique du Sud ou une connerie comme ça. Hein, j'exagère. Ça rentre en compte. Ça vous impose de faire des choix, de finalement refuser un auteur pour avoir plus de budget pour un autre.
La plupart sont quand même français ou habitent en France, dans les auteurs qu'on a invités. À un moment, on avait envie d'inviter Loisel et on s'est aperçu qu'il habitait au Canada. Mais on peut faire des recherches antérieures, en fait, avant de proposer l'invitation en général. Surtout qu'on passe aussi par les maisons d'édition pour inviter, et les attachés presse en général sont mieux renseignés que nous et peuvent aussi nous donner des pistes. Mais globalement, c'est rarement un frein. Sauf là pour les derniers auteurs qui se sont présentés spontanément parce qu'ils voulaient venir au festival. On leur a dit que c'était pas possible. C'est vrai qu'à un moment, le budget forcément nous limite aussi.
Oui, parce que même s'ils peuvent venir par leurs propres moyens, après il y a toute la logistique, nourriture, machin chose sur place.
On peut pas leur assurer par exemple l'hôtel ou ce genre de choses.
Combien d'auteurs en tout cette année ?
On en est à 23 auteurs confirmés. On a aussi l'équipe du Zarmatelier qui vient. Et après, on en a encore deux ou trois qui doivent confirmer, donc on arriverait à quasiment 30 auteurs.
Maxime. Donc, il faut savoir que cette année, on a voulu, peut-être plus que les autres années, intégrer complètement Marseille dans notre festival, c'est-à-dire tous les dessinateurs locaux, les librairies BD locales, et vraiment s'investir au niveau local pour que tout Marseille, enfin toute la BD marseillaise soit présente au Festival des Calanques et des Bulles.
Au niveau, justement, vous parliez, la programmation, c'est pas que les auteurs. C'est vous qui gérez la librairie qui va être présente, ce genre de choses-là, les associations qui sont là, les vendeurs de BD.
Justement, ça c'est une grande partie de notre travail. Tout d'abord, on choisit les libraires. Donc nous, on a des très bons contacts avec la librairie du Snorgle, l'entre du Snorgle et la réserve à Bulles à Marseille, donc deux librairies BD. Ensuite, sur le festival, on invite aussi des bouquinistes pour avoir de la BD d'occasion. On a des maisons d'édition marseillaises, dont même pas mal, des fabriques à fanzines comme Anachronique. En plus de ça, on a sur le festival un espace manga. En fait, on invite l'association Aïsora Cosplay à venir faire du cosplay le dimanche sur notre festival. Donc, il y a un concours. On a en plus plein d'animations manga, dont un libraire manga aussi, qui est à Marseille. Donc on essaie d'avoir une programmation éclectique et en même temps que ça plaise à tout le monde, tout en restant dans notre ligne de base, qui est la BD comme média d'engagement pour cette édition.
Pourquoi un espace manga pourquoi avoir mis le manga à part ? Ça c'est la question vache.
Ouais. Alors faut savoir que chaque année on a quand même des débats sur cette question. On l'a mis à part parce que on considère que c'est un univers à part entière et que on a rattaché donc le cosplay, le manga, la librairie, on a une association de démonstration d'arts martiaux, on a aussi des jeux vidéo qui se rattachent à la culture nippone, donc on a décidé de tout centraliser au même endroit. Après, peut-être dans les prochaines années, on décidera de tout fusionner.
Parce que moi, je pense par exemple à un invité comme Sobral, qui serait pour moi plus axé sur ce côté manga au niveau culturel, au niveau des influences. C'est vrai qu'on commence à de plus en plus avoir des auteurs qui ont le cul entre deux chaises, je dirais. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu délicat.
Après, on essaye donc de mettre tous les auteurs ensemble, enfin, dans la partie auteur dédicace, et d'avoir une partie manga, enfin, plus nippon. Mais c'est vrai qu'on a tendance à fusionner, bien sûr, dans quelques années. Je pense quand les auteurs français seront beaucoup plus stylisés manga, on aura tendance à fusionner ces deux univers. Ouais.
Enfin, pour sa défense quand même, c'est que je pense qu'ils sont un petit peu aussi obligés de gérer l'architecture de l'université, qui fait qu'ils peuvent peut-être pas avoir une salle où ils vont mettre 200 personnes. Quoi.
C'est vrai, je peux poser des questions vaches. Non, mais j'ai le droit.
Pas de souci.
La bonne remarque, merci de prendre leur défense.
Merci.
C'est parce qu'ils nous accueillent vachement bien.
Oui, c'est vrai qu'ils nous accueillent bien. On va embêter Sophie, parce que je sens qu'elle a envie de parler.
Oui.
Donc, c'est ta première année, tu t'es retrouvée dans ce projet-là. C'était un goût pour la BD ou c'est le projet qui t'intéressait ?
Ben, la BD, je ne suis pas une grande fan de BD, mais j'en lisais un peu et j'ai recommencé à en lire il y a 2 ans. Et j'aime beaucoup le dessin et du coup, c'est vrai que je suis de plus en plus attirée par la BD. Et donc, ben, quand j'ai vu ce projet, ça m'a intéressée. Je suis attirée par l'événementiel et je suis de plus en plus curieuse de la BD. Donc, c'est vrai que ça m'a tenté et puis là, je ne regrette pas.
Tu as recommencé à relire de la BD il y a 2 ans. Qu'est-ce qui t'a fait relire de la BD ?
Eh bien, je suis partie en vacances avec des gens qui lisaient beaucoup de BD. Et j'ai lu notamment Aya, que j'ai adoré. Ouais. Et du coup, après, petit à petit, voilà, je me suis mis à lire de plus en plus de BD. Alors, j'en lis pas énormément, mais j'aime bien. Quoi. C'est...
Et ta dernière découverte BD, c'est quoi ?
Alors là, j'ai lu un gros recueil de BD, en fait, qui sont des extraits de l'hebdomadaire 21.
Ouais.
Donc, ça s'appelle Grand Reporter. Et c'est, il y a à peu près 600 histoires dans différents pays. Et c'est très intéressant, ça fait vraiment voyager, on voit la culture du pays, les problèmes politiques à travers des histoires vraies et personnelles, et c'est vraiment un beau livre.
D'accord, oui, Revue 21, très bonne revue qui met la bande dessinée au même niveau que le texte classique au niveau des reportages. Maxime, ta dernière découverte ?
Alors moi, il faut savoir que je suis beaucoup attiré par tout ce qui est édition et dessin, mais dernièrement, je ne peux pas vraiment vous citer un nom. Je vais vous citer quand même le parrain de l'an dernier, donc Flock, qui était pas venu l'an dernier pour son bouquin Les naufragés d'Ithac, son album. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir une petite BD dédicacée et de pouvoir entrer dans son univers qui est génial. Et cette année, notre parrain, Arthur Depin, j'ai eu l'occasion de lire Arthur Depin, bien sûr, vu que c'est notre parrain. Et ça va être vraiment intéressant et sympa.
Ok, toi t'as découvert la BD en cours de festival.
Ouais, c'est ça.
Bon, Géraldine, t'as un pavé à côté de toi.
Oui, alors moi, ma dernière découverte BD, pardon, c'est Kiki de Montparnasse, donc de Catel et Bokeh. Voilà, et je connaissais pas du tout, je l'ai pris vraiment au hasard, enfin, je me suis dit que j'avais besoin un peu de découvrir de nouveaux auteurs, donc hop, j'ai pris la BD.
C'est un beau pavé pour le prendre au hasard quand même. Hein.
Ouais, la couverture est jolie quand même. Mais donc c'est l'histoire vraie de Kiki de Montparnasse, donc qui a grandi, qui a vécu sa jeunesse à Montparnasse dans les années 20, donc les années folles. Et donc c'était un modèle. Elle a été donc photographiée par le grand
Montparnasse. C'est Man Ray, je crois.
Ouais, en fait, ouais. C'est un petit détournement en fait, oui. Parce que sur la vraie photographie, elle est pas tout à fait comme ça. Mais ouais, c'est ça. En fait, elle a vécu très longtemps avec Man Ray, et donc il y a leur histoire qui est racontée. Et moi, j'aime beaucoup. Je connaissais pas du tout le personnage de Kiki, et en fait, elle m'a tout de suite plu cette. Cette Kiki de Montparnasse, parce que moi c'est juste une femme libérée, émancipée, et elle fait ce qui lui plaît, pendant les années folles.
Ok, bah merci beaucoup. C'est vrai qu'il a l'air, j'ai déjà vu le pavé, il a l'air très très bien. Quelque chose à rajouter ?
Bah 2-3 auteurs quand même,
ouais,
qui viendront au festival. Donc je peux déjà vous annoncer que Maya Mindou reviendra cette année. On aura aussi Claude Pellet, Isa, Johan Trojanowski, et on a aussi la chance d'avoir Fab Caro, Martin Wittberg et Hélène Breuler avec nous.
Ouais, Martin Wittberg, depuis le temps qu'on a envie de le rencontrer.
Donc n'hésitez pas à nous rejoindre le 27 et le 28 avril à Remanagement, campus de Lumini, pour la nouvelle édition de Décalanquer des Bulles.
Toi, c'est la programmation, pas la com. C'est eux qui font ça normalement. Ok, bah merci beaucoup à vous. À bientôt. Express.
On commence par vous parler de la réédition couleur de Coma de Vazem et Peters, hein, une bande dessinée qu'on avait beaucoup aimée chez Humanoïdes Associés. Nous, on avait lu l'intégrale en noir et blanc, donc les 6 tomes compilés. On en a parlé dans le One A Club numéro 13, si vous voulez un peu avoir les détails. C'était un moment. Hein. Tu vas voir les numéros de One A Club que je vais sortir.
Souvenez-vous, c'est quand ils étaient jeunes.
Et sans, quand ils n'étaient pas papa.
Voilà. et qui nous raconte les aventures d'une
sacrée différence.
Petite fille d'une sorte de monde totalitaire où
pour notre sommeil, oui.
Elle trouve un chemin dans les cheminées où elle rencontre un monstre et où elle essaie de s'en sortir, de s'échapper du monde totalitaire. C'est un peu onirique, un peu bizarre et c'est très très joli. Et paraît-il, les couleurs sont très sympas.
J'allais te dire parce que quand tu pardon, excuse-moi. Quand tu as montré, quand tu m'as mis, quand tu m'as mis ça sur la liste justement de ce soir, voilà, la version en couleur m'intrigue parce que bah, c'était déjà, enfin c'était vraiment bien en noir et blanc, mais je t'avoue que je voyais vraiment pas ce que ça pourrait donner en couleur. Et c'est curieux de voir le résultat.
En fait. C'est du grand format en plus. Enfin, ça a l'air un peu plus luxe.
Du grand format.
Ouais. Enfin, format un peu plus classique, quoi.
Bah déjà ici, c'est une jolie édition. Le papier est de belle qualité.
C'est un bon, c'est du beau noir et blanc.
C'est du très beau noir et blanc.
Voilà, mais c'est vrai que ça fait un peu plus intégral, économique, le fait de pas avoir mis la couleur. En tout cas, non, c'était une très belle édition. Et là, je crois qu'il va te coûter dans les 35 ou 39 euros, un truc comme ça.
Quand même. Sponsorisé par cette Hélène.
Le huitième tome des autres gens, qui en fait contient les tomes 10 et 11. Alors c'est un peu bizarre, parce qu'au début, ils avaient lancé, ils faisaient 6 mois par 6 mois. Là, maintenant, ils font, enfin, ils faisaient un mois par un mois. Maintenant, ils font 2 mois par 2 mois. Donc, c'est les mois numéro 10 et 11. Alors, les autres gens. Alors,
rappelle-nous, Isaac, ce que c'était, les autres gens, donc.
Oui, oui.
Donc, les autres gens, c'est la BD Novella.
C'est la BD Novella.
Créée par.
Non,
Thomas Kaden.
Thomas Kaden.
Ah. Ouais, voilà, Thomas Kaden. Voilà, et ouais, pas Vendry. Créé par Thomas Kaden, qui en gros est un peu le précurseur de la bande dessinée numérique, c'est-à-dire qu'il est un des premiers à avoir lancé une offre de bande dessinée payante, où on avait au quotidien, tous les jours de la semaine, ces quelques pages de bande dessinée, qui nous
raconte par plusieurs...
Des tonnes de dessinateurs.
Oui, des tonnes. Des tonnes. Oh, et finalement, à la fin, on peut arriver à des tonnes.
Oui, ouais, ils étaient vraiment... Il faudrait les peser tous pour voir s'ils font vraiment des tonnes. Et donc, en gros, on suivait le récit qui suivait les aventures d'une jeune fille qui donnait les numéros à un gars pour l'euro million et il gagnait l'euro million et il décidait, comme lui était déjà milliardaire, de donner quasiment toute la somme à la fille et on voyait l'influence sur sa famille, ses relations, etc. Donc, vraiment de l'aventure, allez, on va dire la comédie des mœurs humaines. Un projet super original et qui permettait pour moi surtout principalement parce que c'est pas enfin c'est un peu du soap hein, c'est pas mon style préféré. Parce
qu'il y avait quand même des fois des, enfin il y avait peu de rapports entre les différentes parties et des moi le peu que j'en ai lu il y avait des moments où je me perdais un peu quand même hein.
C'est à dire qu'en gros c'est vraiment du soap, c'est à dire que si t'as pas suivi t'es vite largué. C'est un peu le problème. Imagine que tu te retrouves au milieu d'un épisode de n'importe quel soap, même un bon soap, parce qu'il y en a, paraît-il. Tu fais nié.
Non, alors là-dessus, j'ai eu une discussion un jour avec la grand-mère de ma femme qui m'a dit que même si ça fait longtemps que tu n'as pas suivi Amour, Gloire et Beauté, tu le regardes 2 épisodes de suite et tu retrouves tout.
Oui, mais c'est vrai qu'il se passe 20 minutes entre chaque épisode. Enfin, c'est un peu lourd. Donc, les autres gens, on en a beaucoup parlé dès le One A Club numéro 3, si vous voulez entendre la première fois qu'on en a parlé. Mais on va surtout citer les hors-séries, le numéro 5, où Vendry, qui n'était en tout cas pas officiellement encore scénariste des autres gens, nous en parle un peu. Et
Sacha Gerg. Sacha Gerg.
10. Voilà. Qui lui était un dessinateur qui a fait des trucs super sympas, dont une semaine érotique. Parce qu'il y avait des semaines érotiques dans les autres gens. Ouais.
Mais je ne connaissais pas Sacha Gerg pour ça.
Ouais, et c'est classe. C'était beau. Et maintenant, il faut que je lance un jingle et ma fenêtre, elle est fermée. Mais comme on est dans le direct différé, c'est super dur. Et ça fait punk quand je tape sur la table aussi. Et oui, donc, nous allons parler de The Boys Deluxe, numéro 3. The Boys.
The Boys, Brutal Deluxe.
Oui, Brutal Deluxe. En gros, c'est une belle réédition chez Panini qui réunit plein de tomes, alors je sais pas exactement combien. Si vous êtes intéressé par The Boys, on a commencé à en parler dans le numéro 0. Ouais, alors
et,
je vais remonter.
Et la dernière fois qu'on en a parlé, c'était dans l'épisode 74. Donc, vous faites le compte, c'est un peu une série qu'on suit depuis le début.
Voilà. Donc,
ou qui vous suit depuis le début. Ouais, mais a priori, la série s'arrêtera avant nous.
En fait, pas dans le 74, parce qu'on n'a pas parlé dans le dernier, en fait. Il y a dû avoir une erreur dans mon numéro.
70, pardon.
Voilà.
C'est dans le HS Prime que nous allons bientôt faire.
Voilà. Bon, on en parle vraiment beaucoup. The Boys, ça nous raconte l'histoire de super-héros. Allez, résumé super vite. De gars qui luttent contre les super-héros qui sont tous des enfoirés.
de gars qui surveillent les super-héros pour que les super-héros ne fassent pas n'importe quoi.
Mais ils sont déjà en train de faire n'importe
mais
quoi.
Mais sauf que les super-héros font quand même n'importe quoi. Alors du coup, les petits gars, ils sont obligés un petit peu de leur taper sur les doigts.
Donc c'est une très très belle édition chez Panini. Leur gros album cartonné. Là.
Est-ce qu'ils ont mis des bonus dedans ?
Je ne sais pas, j'ai pas été fouillé jusqu'à là. Mais si vous avez raté les éditions de base,
ils ont mis,
en général,
ils ont mis combien de tomes à peu près dedans ?
Je dirais 2-3.
C'est offert avec un chien ou une batte de baseball ? Est-ce qu'il y a de la vaseline avec ?
Leur but de leur jeu, apparemment, c'est de me faire passer des jingles pour les couper. une autre édition, c'est Y, le dernier homme. Il y a le tome 2 qui sort chez Urban Comics. Le tome 2 réunit les tomes 3 et 4 de la précédente édition chez Panini.
Ça devient obscur après
Ouais, c'est un peu compliqué. Non, mais ça correspond aux intégrales à l'américaine, les grosses belles intégrales américaines en hardcover. Voilà, donc belle
édition. J'ai l'impression que tu convertis des miles en mètres.
Oui, c'est un peu, bah, c'est un peu ça. Et donc, on en a parlé de Y, le dernier homme, dans le One A Club numéro 1 et dans le numéro 8. On avait parlé des deux derniers tomes seulement. Parce que
la série se finissait.
C'est une très très bonne série. Si vous l'avez raté, foncez dessus. J'ai rapidement feuilleté l'édition... Donc de chez Urban, je sais pas s'il y a du bonus ou quoi que ce soit, mais en tout cas...
T'as feuilleté quoi alors ?
J'ai regardé le papier, la qualité, et c'est vrai que j'échangerais bien mes bouquins. Parce
que il a regardé l'été aux toilettes.
Ah ouais, non, attends, il a regardé le papier, la qualité, mais en fermant les yeux, comme ça, il voyait pas ce qu'il y avait ça.
Nous allons parler de Sorcières, Sorcières.
Tu bégayes ?
Une bande dessinée sortie chez Bac à BD. Alors, si vous pouviez sortir le tome qui doit être au milieu d'une des piles nombreuses et variées.
Oui, surtout celui qui est en fait devant toi.
J'ai un bras en moins, je peux pas.
Ah oui, on vous a pas dit quand même.
Oui, il s'est fracturé le trochanter.
Le trochanter, c'est sur le fémur.
Ah.
Oh.
Mais comme il se la pète.
Alors donc, tu t'es fracturé donc.
Oui.
Le troufignon, voilà, en faisant du ski
de l'épaule.
Donc, sortir
du ski à l'arrêt surtout.
Bac ABD dans leur collection Au Talent. C'est l'histoire dans un monde où il y a des sorcières qui existent. On suit une famille de sorcières et une petite fille qui se retrouve accusée de jeter des sorts à ses collègues d'école, des sorts assez méchants et des sorts en plus qui sont censés être secrets parce que c'est son père qui les étudie le soir pour son boulot au sort de ministère de la magie, enfin pour le grand ordre magique, machin chose. Et donc on se lance dans ce mystère-là.
Désolé, ça faisait un peu Harry Potter quand même ta description.
Ouais, je sais. Bah, on est clairement dans ces ambiances un peu monde magique, monde de sorcières, etc. Globalement, donc édition Bac à BD. Alors édition Bac à BD, même si on a bien aimé certains de l'opération, pas toutes, on a souvent reproché un peu les qualités d'édition. Et là, je trouve que bah y a rien à dire. C'est une très belle qualité d'édition. Y a le logo qui a été revu sur l'avant, ça fait beaucoup moins de cheap. Il est vachement plus classe comme ça, je trouve. Y a un vrai travail de mise en page. Les couleurs sortent très très bien. Franchement, moi je peux que signaler quand je vois qu'un éditeur, j'ai l'impression que ça progresse et que sa BD me donne plus envie au moins à la regarder. Quoi.
Alors le petit logo en question, en fait, il se sert de la police d'écriture de Sorcière Sorcière.
Oui voilà, mais c'est une bonne idée parce qu'à la base c'est un truc un peu basique, carré et tout. Et bon voilà. Donc globalement déjà un bon point.
Voir parfois avec des couleurs sur une qui n'allait pas avec le reste de la première.
Voilà. Donc c'est bien intégré, on a une belle couverture. Au niveau du scénario, qu'est-ce que tu en as pensé, Thio ?
Moignon.
T'as dit quoi ?
Moignon, c'est moignon.
C'est tout moignon.
C'est très moignon.
Ah, moi j'ai mis malin au niveau du scénario.
Moi j'aurais mis moignon pour le dessin.
Tu vois, j'ai mis mini-ombre. On verra pour le dessin. Donc le scénario, ouais, moignon.
Ouais, moi je trouve ça super moignon, C'est frais, c'est agréable à lire. Le scénario d'enquête en lui-même est bien mené. T'as des petits rebondissements, t'as des petits indices qui font que toi aussi tu commences à avoir des petits doutes sur les suspects possibles. Ça fait une bonne petite enquête de police dans le monde des sorciers et voilà, très sympathique.
Moi j'ai trouvé ça malin. Parce qu'en fait, il y a deux histoires. Et les deux histoires se passent en même temps et en parallèle. Et donc, il y a des rebonds, il y a des réponses entre les deux histoires que je trouve très bien gérées. Des trucs qui se passent dans l'arrière-plan de la première histoire, où on est un petit peu... voilà, et je trouve ça plutôt sympa.
Alors, je valide ton truc, mais là, tu vois quand même qu'il y a une deuxième histoire que quand tu arrives à la deuxième histoire.
Ouais, mais il y avait des indices déjà.
Oui, je suis d'accord qu'il y a des indices, etc. Mais tu ne t'en doutes pas, tu peux pas savoir qu'il y en a une deuxième qui va arriver.
Voilà, tu peux pas le savoir. Mais voilà, moi, ce que je trouve, c'est que quand la deuxième arrive et qu'on voit ça, je trouve ça bien, parce que tu as beaucoup de petits trucs qui étaient... en fait, comme des fausses pistes, en fait, qui servaient de fausses pistes aussi de l'intrigue principale, qui permet de résoudre un peu tout, et j'ai trouvé ça plutôt joli.
Moi qui ne l'ai pas lu, c'est à destination de quel public ?
Oui, plutôt jeunesse. Hein. Clairement, ouais. On est sur quelque chose de très jeunesse. Hein.
C'est ce que j'avais comme impression, et pour autant, au niveau justement de la construction avec les deux histoires, plus les bonus à la fin, etc., on s'éloigne peut-être un petit peu de la cible de jeunesse. Enfin, je sais
moi,
pas.
Je trouve pas. Non. Ouais. Non, je trouve
non,
ça
parce qu'au
bien.
Contraire, je trouve que ça fait le petit rajout à la fin, ça fait un petit peu le carnet de découverte, quoi. C'est le carnet d'enquête.
C'est le carnet d'enquête. Enfin, ça ressemble un peu à un carnet de bord façon scrapbook.
C'est ça, ouais. Non, je trouve que ouais. Enfin, ça fait au contraire encore plus jeunesse, quoi. Ça fait le petit truc que tu recherches, que tu.
Mm. Oui, non, moi j'ai trouvé ça, le côté jeunesse, du début à la fin, passe très bien. Et puis pas désagréable à dire pour un adulte aussi, parce que justement, ce que disait Thio, l'enquête fonctionne pas mal. Donc ça, c'est le scénario de Chamblin, si je me trompe pas, si c'est écrit dans le même ordre que chez tous les éditeurs. Et enfin, le dessin, Thio.
Pastel.
Moi j'ai mis Mini-Ombre. Je trouve qu'il est pas si clair que ça. Il y a des couleurs très pastel, très lumineuses. Mais il y a une sorte de la vie un peu sombre par-dessus. C'est coloré, mais je trouve qu'il y a, enfin voilà, il y a un monde de la nuit, il y a ce genre de choses-là, qui est super sympa, je trouve, qui reste mignon, tu vois. C'est comme si tu disais, hey, on est dans le noir total, mais en fait, c'est mignon, le noir total. Alors que bon, normalement, ça fait peur, le noir total.
Moi, j'aime bien le côté, avec du grain de, qui est donné dans les lumières, dans les cases, dans les couleurs.
Et la texture, ouais. Sur le...
voilà, il y a un côté un petit peu texturé qui donne un petit peu de la profondeur au dessin, qui rajoute une petite touche de vieux mignon, on va dire. Ça évite le côté flash nouveau, tout beau, avec plein de couleurs dans tous les coins, et qui aurait été un peu trop agressif peut-être.
Alors que j'ai l'impression que c'est de la couleur informatique.
Ah oui, non, mais ça sans nul doute. Hein, mais c'est ce petit côté de texture là qui est rajouté et
mais un peu le doute quand même.
Donne un vrai plus. Voilà, ça donne une jolie ambiance.
Narrativement, il y a en plus quelques trouvailles, des recherches. C'est pas que de la mise en page, de la mise en scène ultra classique. Les bonus, on en parlait, sont plutôt mignons, sympathiques. J'aime bien en fait les BD à bonus. Faudrait que tout le monde en mette, quoi, tout le temps. Tellement c'est sympa.
Ben, surtout que je me dis que ça doit pas non plus demander beaucoup plus de travail aux auteurs. Surtout, voilà, quand tu commences à discuter avec pas mal d'entre eux, c'est qu'ils ont tellement de croquis préparatoires, de travail en amont, tant sur les décors, sur les personnages, sur les idées. Je pense qu'il doit y avoir une multitude de choses qui pourraient être ajoutées à la fin des bandes dessinées qui franchement
les rendraient intéressantes,
enrichiraient encore plus la bande dessinée et surtout montreraient davantage encore tout le travail tant du scénariste que du dessinateur que du coloriste. Enfin, c'est...
puis pour les lecteurs un peu bêtes aussi de se rendre compte qu'ils ont raté un truc, ça peut arriver aussi, ah j'avais pas vu ça, c'est ce qu'ils voulaient dire en vrai, voilà. Bon, deux points, moi, un truc, c'est que dans les bonus, là, à un moment, on voit une case avec une sorte de bordure super ouvragée. Je regrette qu'ils en aient pas mis de partout parce que c'est super classe. Et un point qui m'a vraiment fait craquer dans cette BD, c'est le mode de communication. Les citrouilles.
Ouais.
Ils communiquent par des citrouilles où, en gros, ils disent un message et ils la soufflent. Et au moment où ils la soufflent, elle va s'allumer à un autre endroit en faisant « Courrier !» bon machin, et elles ont des gueules, les citrouilles, franchement, voilà, j'ai presque envie de choper l'auteur, juste pour...
C'est des namastags en forme de citrouille.
Oui, mais, oui, mais la gueule, le design de la citrouille. Enfin, ouais, j'ai envie de choper la dessinatrice et faire, je veux juste une petite dédicace de citrouille parce que elles sont vraiment super rigolotes, super classe. Enfin, moi, je suis tombé amoureux de ces citrouilles.
Le monde entier est plein de bonnes petites idées sympas. C'est, je dirais, un bon achat cadeau pour les enfants et pour les adultes.
Voilà, moi je. Oui, parce que ça se lit de façon assez plaisante. Quelque chose à rajouter ?
Non.
Non, je ne crois pas. C'est parti. Urban numéro 2.
Attention, on retire les verres.
Tirage de verre pour enlever les trucs de la pile sans rien faire tomber. Donc, Urban numéro 2, une bande dessinée de Luc Brunschwig, qui ne se prononce sans doute pas comme ça, et de Roberto Ricci, qui doit se prononcer comme ça. Hein, je pense que sur le deuxième, je ne me trompe pas trop. Le Napolitanais, confirme-t-il ?
Oui, enfin, le corps s'auto-confirme, en fait.
C'est pas exactement pareil sur les accents. Nous avions déjà parlé du tome 1, que nous avions plutôt bien aimé, hein, c'est chez Futuropolis, qui nous racontait les aventures d'un jeune qui débarquait dans la cité de Montplaisir, une cité dédiée au plaisir, en fait une sorte de parc d'attractions géant où les gens vont quand ils arrivent à avoir assez de sous pour se payer des vacances, et où en général, souvent, ils y restent parce que quand ils ont plus d'argent, ils peuvent plus repartir. Parce que c'est sur une planète distante, dans une sorte de dôme gigantesque. Et qui devenait comment ils s'appellent, les sortes de flics de cette ville-là, pas les Interceptors, un truc dans le genre.
Ouais, un truc dans le style.
J'ai plus en tête. Enfin bon, il devenait un flic là-bas, inspiré par un de ses héros de jeunesse d'un dessin animé qu'il adorait quand il était môme. Et son objectif, il se retrouve rapidement à avoir une mission pour lutter contre un criminel. Sauf que, dans mon plaisir, comme tout n'est que source de jeu, les chaînes de télé suivent les traces des criminels, et donnent des indices, et lancent des paris, et voilà. Et le héros...
Les Urban Interceptors.
Interceptors, j'étais pas mal, Urban Interceptors. Le héros qui s'appelle...
Zach,
donc lui se retrouve...
Zachary Buzz.
À son collègue qui luttait contre un criminel qui se fait flinguer, il doit prendre la place du collègue pour lutter contre un criminel qui est censé être un gros balèze. Zachary, lui, c'est un petit débutant un peu naïf. Il a l'air d'une brute bien costaud comme ça, mais ce n'est pas le cas. Et c'est un personnage très secondaire du tome 2. Vraiment, j'ai trouvé.
Il était central sur le premier, mais oui,
Et c'est des personnages.
Secondaires sans lettres.
Oui. Oui, parce qu'il reste un peu en termes de fil rouge, mais c'est des personnages secondaires qui apparaissaient vaguement dans le tome 1 qui là prennent de l'importance. Le personnage en question, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui était costumé comme le héros d'enfance de Zachary, parce que bien sûr tout le monde est déguisé dans mon plaisir, ils ont tous des costumes. D'ailleurs, Roberto Ricci s'amuse à mettre des costumes dans tous les sens de plein de gens, et il y a même dans ce tome 2, pour info, des lecteurs qu'il a proposé sur un forum de BDGest, je crois, aux lecteurs d'envoyer une photo d'eux et le nom du costume qui les intéressait, il les intégrait dans la BD.
Excellente idée.
Oui. Donc moi je vais trouver ça assez rigolo. Théo, tu devais pas le faire, d'ailleurs. Hein, je sais plus.
Je voulais, je crois.
Ouais, tu voulais, mais t'as zappé. Bon. Et donc en Suisse, ce gamin-là qui se retrouve abandonné en fait, qui se retrouve dans les rues. Récupéré par une sorte de gars qui vit dans les rues de Montplaisir, qui est une sorte de vagabond qui tente de survivre quand il peut dans les rues alors qu'il a plus de thunes, et qui se rend compte que ce gamin, il a des crédits à ne plus savoir qu'en faire, en fait. Il est plein de thunes. Et on va suivre un peu cette histoire-là en parallèle. Et en parallèle encore, on suit l'histoire d'un vieux flic qui se retrouve à aller faire une enquête sur Montplaisir, qui s'arrange pour pouvoir partir avec sa femme, parce que sa femme rêve d'aller à Montplaisir depuis des années, et qui donc va mener son enquête là-bas. C'est très très complexe, je trouve, comme scénario, mais très bien écrit, c'est-à-dire qu'on sent qu'il laisse des pistes et des indices un peu partout, et que dans le tome 3, je ne sais pas si ce sera la conclusion, on va encore avoir le même genre de personnages secondaires qui deviennent principales, les croisements principaux, hein, c'était ça. Vous savez, j'ai hésité, mais je me suis planté. Les croisements entre les personnages vont sans doute se rencontrer. Enfin, on sent que...
Il y a une réelle continuité entre le tome 1 et le tome 2.
Oui.
Oui, tu suis la même histoire, mais c'est vrai que les personnages, en fait, changent. Ceux qui étaient en avant sur le premier tome se passent un petit peu en arrière-plan sur le deuxième, même si pour... Enfin, pour autant, je dirais que les histoires se croisent, en fait, plus que...
Oui, mais je pense que... Je ne sais pas si ce sera pour le tome 3 ou pour un tome suivant, mais on va avoir la traque du grand méchant, là, Ibrahim, et qu'on va avoir en parallèle les histoires, là, qui vont vraiment se croiser pour de bon sur une scène un peu finale. Enfin, c'est l'impression que ça donne, quoi, qu'il est en train de lier un peu, de tisser son histoire pour arriver sur une petite apothéose qui sera bien sympathique. Et scénaristiquement, enfin moi, je trouve l'écriture vraiment
Très riche, quoi. Ouais. D'ailleurs, sur le mot que j'avais mis pour le scénario, c'était multiple.
Oui.
Parce que t'as plein de plans différents sur lesquels tu peux, enfin, où ça avance petit à petit, quoi.
Et t'as envie d'en apprendre plus sur cet univers. En plus, cette ville a une sorte de cohérence. On voit que c'est quelque chose qui a été mûri longuement, apparemment, par Brunschwing. Je sais plus si c'est dans les bonus ou une interview où j'avais entendu ça, où il expliquait que justement c'était un vieux projet qui avait déjà eu un premier tome, mais avec un autre dessinateur, mais raconté différemment, qui avait pas marché. Il avait retravaillé, remûri pour le ressortir encore autrement. Enfin, c'est un vieux projet qui a dû être réécrit, je pense, un bon paquet de fois.
Je pense déjà d'une part le scénario est réécrit parce qu'il est quand même très complexe. Mais aussi au niveau du dessin, je pense qu'il fallait avoir un dessin qui allait vraiment dans le détail, mais sans pour autant faire fouillis, quoi, pour retranscrire, je pense, mon plaisir. Parce que si tu, enfin, suivant qui tu prends comme dessinateur, je pense que tu peux te retrouver avec beaucoup trop de choses sur ta page, sur ta case.
Il y en a des tonnes là. Hein.
Oui, mais
quand il te montre la foule, waouh.
Oui, mais il y en a des tonnes, mais pour autant, tu te sens pas. C'est pas brouillon.
Je pense que le travail de la couleur aide beaucoup. Il va réussir à mettre par un jeu de couleurs bien en avant un personnage. Il va vraiment faire quelque chose à ce niveau-là. Enfin, moi, que je trouve, le travail de la couleur d'ailleurs sur cette BD est assez bluffant, quoi.
Bah, c'est ça qui fait beaucoup de l'ambiance, parce que voilà. Donc là, je cite mes mots pour la couleur, pour le dessin, c'était Blade Runner colorisé.
Ouais.
Parce que bah du coup, t'as tout le détail de la ville que tu avais dans le film de Ridley Scott. Et du coup avec des couleurs qui claquent, quoi.
Oui.
Parce que c'est l'endroit où on fait la fête.
Et ça en jette, et ouh, c'est beau, c'est mignon, c'est plein de roses, de cœurs, enfin...
Mais en même temps, c'est pourri parce qu'il n'y a que l'argent qui domine.
Oui, on sent qu'il y a un fond pourri. Je me demande si on va aller un peu dans le cœur de cette cité, voir les dirigeants, comment elle fonctionne...
Ou je dirais dans le cœur, de l'autre côté, parce que là on a commencé à le voir avec le magicien.
Oui, le magicien, donc ce que je disais, c'est le gars qui vit dans la rue et qui recueille le môme.
Voilà, qui du coup serait peut-être intéressant aussi peut-être d'avoir un côté, tu sais, les rebelles qui sont dans la cité mais qui essayent de
rendre... Quoi, les rats, ouais. Hein, qui vivent mais ils ne peuvent pas dormir deux fois au même endroit parce que l'endroit où ils ont dormi...
La mémoire génétique, ils ne peuvent plus redormir dans cette arrière-cour.
Parce que sinon ils se font électrocuter pendant leur sommeil,
Ouais, désintégré, hein, parce qu'il reste...
Oui, désintégré, bien électrocuté très fort.
Ouais, donc il reste que les os. Hein, c'est...
Même pas.
Si.
Mon plaisir, c'est propre. Donc, voilà, moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas le genre de série que je m'attendrais à voir chez Futuro, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas, je pense que c'est parce que Brunschwing s'entend bien avec eux, avec tout ce qu'il a fait avec les enfants de Jessica, etc. Mais c'est pas une série, la SF comme ça, je me serais pas attendu à voir ça chez Futuro. On est plus dans du divertissement, tu vois. Je trouve que c'est un petit décalage avec la ligne éditoriale de Futuro d'habitude.
Petit décalage, en tout cas très heureux.
Oui, très heureux, parce que c'est une très bonne bande déclinée. Voilà. Nous,
Isaac, qu'en penses-tu?
Ça m'inspire.
On l'a senti. Et nous passons tout de suite à...
HK 1.1. Et Isaac va nous faire le résumé.
Putain, vous êtes vaches, les gars.
Allez, Non, mais je sais pas, t'as lu qu'une BD de la sélection des chroniques, quoi. On te laisse faire le résumé, quoi.
Oui, alors donc je tiens à rappeler que je l'ai lu il y a dans le royaume de Forfon lointain. HK 1.1. Globalement, on est dans une dans un univers futuriste, dans un monde aquatique avec des cités
hautement technologique, on va dire,
avec des immeubles.
Oui. Et pas gagné, c'est aquatique.
Et l'angolais,
c'est vert.
On est sur un territoire qui a perdu la guerre. Ils ont fait une trêve et les premiers vainqueurs donc de cette guerre reviennent pour conclure des accords commerciaux. Et au milieu de tout ça, on suit des jeunes gens argentés pour certains, désargentés pour d'autres, qui sont des rebelles de la société et qui font leur petit marché noir en allant piquer des objets et des richesses à droite à gauche.
Oui, en gros, c'est ça. On a les jeunes rebelles riches qui veulent lutter contre le méchant envahisseur qui revient alors qu'on a fait la guerre contre eux et que donc on va faire des actions de rébellion parce que c'était pas gentil. Puis on a les jeunes pas friqués qui, eux, veulent aller piquer tout ce qu'ils peuvent partout où ils peuvent pour faire du marché noir et de la revente.
Voilà. Et dont le personnage principal qui, en plus d'être désargenté, est amputé. Alors, heureusement que la technologie est là pour pallier une partie des problèmes.
Bah, d'ailleurs, je pense que l'autre personnage principal, la technologie, a sans doute était aussi là pour pallier à des problèmes.
C'est ça.
Parce que elle aussi, je pense, a eu droit à des modifications corporelles.
Miam miam.
Voilà. Fort avantageuse. Bon, et en gros, on les voit se croiser et on voit comment est-ce qu'ils gèrent ça et on se rend compte que ils mettent les pieds dans un
nid d'embrouille.
Dans un nid d'embrouille et ça m'a beaucoup fait penser, mais je pense que ce n'est pas pour rien à Akira.
Évidemment.
Et pourquoi est-ce que ça m'a fait penser à Akira aussi? Parce que HK, à un point, est une réédition, réécriture aussi, ça a été redessiné en partie, de la série qui était sortie dans la collection Akira, chez Glénat, qui était donc la série de toutes les BD au format d'Akira à l'époque, je parle des tomes couleurs, tu vois, donc c'était un format, non, ça fait rire, parce que c'est un format comique, en fait. Et HK était sorti dedans avec des grosses, plein de pages, quoi. C'était les premiers à faire ça. Donc, Morvan était un jeune scénariste débutant, hein. On n'avait pas trop entendu parler de lui à l'époque. C'était ses premiers succès. Il avait fait Nomade, je crois, juste avant aussi, ou je sais plus lequel est sorti avant. Les deux sortis dans cette collection-là. Et déjà, Morvan s'intéressait beaucoup à ce qui se faisait en Asie, en s'inspirant pas mal de la façon dont étaient construits les récits. Au niveau du dessin, qu'en avez-vous pensé,
Thio? Moi, j'ai mis couleur ail.
Ça pique?
Ça pique.
C'est très, très informatisé.
C'est trop.
Alors?
Ça a été recolorisé, je crois, pourtant. Et je pense que c'était vraiment dans le ton années 80, fin 90. Hein, là, c'est l'époque d'origine, quoi, de HK.
Oui, oui, mais... Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, on est en plein dans l'ambiance technologique de l'univers. Ce côté-là renforce cette impression de futurisme, on va dire.
Ouais, mais aïe.
Ah, c'est sûr que ça pique aux yeux, hein, ça envoie de la couleur.
Oui. Et encore, je pense que ça a été recolorisé, parce que il y a un... Moi, j'ai souvenir d'HK comme quelque chose qui était un petit peu plus violent au niveau des couleurs, tu vois.
C'est possible d'être plus violent au niveau des couleurs.
Souviens-toi des BD de la fin des années 90, quoi. Dès que les mecs, ils avaient découvert, oh, je peux faire des couleurs en numérique. Bah, je fais péter les trucs. Je te ressors le premier Spawn. Pour te donner un exemple, c'est Steve Olive. Pourtant, c'est le gars qui avait déjà fait les Akira. Et Akira, c'était colorisé subtilement, hein, pour de la couleur digitale. Tu regardes les premiers Spawn. Pourtant, dans mes souvenirs, moi, Spawn, les couleurs, c'était trop bien. Tu ouvres le premier Spawn, tu fais, oh mon Dieu, mes yeux brûlent, ils fondent. Et là, je pense que ça a été un peu revu, tu vois. Non, c'était, il y a eu un gros, enfin, je sais que ça a été réécrit, redessiné principalement, réadapté aussi à un autre format. Parce que le format d'album est pas le même.
Oui, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le travail de mise en page, des cases, tout ça.
Oui, il y a un travail très dynamique, très moderne, très inspiré de la BD asiatique, oui. Qui à l'époque était assez rare, hein. Et je ne sais pas à quel point il faudrait que je retombe sur un premier tome d'origine pour pouvoir comparer. Bah, si vous, chers auditeurs, vous avez quelque chose... enfin, vous avez un souvenir, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le premier HK. Moi, ça remonte à vraiment loin. Je me souviens l'avoir feuilleté dans la librairie que je fréquentais à Ajaccio il y a très longtemps.
Ajaccio.
Voilà.
Laissez vos commentaires.
Le scénario.
Ouais, c'est ouais. On met en place des choses. C'est du vieux revu et corrigé. Bon, c'est pas très novateur, mais
plaisant.
Pense à
l'époque d'origine aussi.
Alors, voilà, voilà. Il faut replacer ça dans son contexte. Moi, je trouve à l'arrivée, ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est dynamique.
Alors. Il faut quand même voilà peut-être un tout petit peu clarifier le truc, c'est que voilà moi j'ai commencé avec le 1.5
parce oui, que je suis tombé
voilà non mais parce que je suis tombé dessus dans une grande boutique qui malheureusement devrait bientôt fermer.
On pense à vous les gens de Virgin.
Voilà et donc du coup j'ai feuilleté, j'ai trouvé que l'histoire était sympa, c'est donc le HK 1.5 et bon je me suis dit il doit me manquer des bouts quand même. Donc j'ai cherché, j'ai retrouvé donc le tome 1, j'ai commandé le tome 1, je l'ai reçu. J'ai commencé par là. Mais entre le 1.1 et le 1.5, il s'est passé, je pense, tellement de choses que le scénario doit être quand même beaucoup plus complexe que ne le laisse présager.
Bien plus touffu, ouais.
Que le tome 1.1.
Enfin, moi, ce que je pense qu'il y a comme souci aussi, c'est que c'est une mise en place dans un tome 1 là, qui doit être sur, je sais pas, il doit faire 60 pages peut-être.
58, j'aurais dit.
Ouais, 58 pages, un truc comme ça. Sauf qu'à la base, la mise en page d'HK, c'était prévu sur 120, quoi.
Oui.
Donc, je sais pas comment ils ont retapé, s'ils ont recoupé.
70 pages.
Ouais, 70 pages. Je sais pas comment ils ont retapé, recoupé. Ouais, ça devait être 140 pages, je pense, le HK à la base. Ouais. Donc, il y a eu quand même. Voilà. En gros. Sur un premier tome, en général, la moitié, qu'est-ce que c'est ? C'est tu mets en place les choses, on n'avance pas trop, etc. Et il commence à se passer des trucs intéressants qui vont te mettre la puce à l'oreille sur la deuxième moitié. Voilà, on n'a que la première moitié.
Non, mais même, il y a des choses intéressantes qui commencent à se mettre en place. Et puis, on voit arriver de loin les conflits politiques qui se profilent à l'horizon entre le gouvernement en place et puis les anciens belligérants qui reviennent pour faire soi-disant du commerce. On sent arriver de loin quand même les embrouilles.
Ouais, il va y avoir un coup vache, des gars qui reviennent juste pour être gentils, mais en fait ils vont pas l'être.
Oui,
il a pas une tête de gentil, le
c'est
méchant.
Ça.
Le méchant.
C'est assez caricatural, mais le méchant a une vraie tête de méchant quand même.
Ouais, je trouve.
C'est vrai, le vrai gros délit de faciès chez les méchants.
Tu veux dire, le gars qui a une sorte de grande gabardine noire avec des favoris et un regard.
Moitié chauve, les gros sourcils, les grosses arcades
voilà.
Sourcilières.
Et un écrochu.
Ouais, non.
Voilà, non.
Oh, ça dit nécrochu.
Et
c'est pas bien.
D'accord. Bon, en gros, HK, on va voir la suite, parce qu'il va bien falloir que tu combles le trou entre le
1.1 et le 1.5. Ça va venir.
Ça va venir.
Je finis de payer les réparations de ma voiture et je suis à HK totalement.
D'accord. Donc, on vous donne rendez-vous l'an prochain. Pour la suite de notre chronique.
Tu ouais. Se prostitue pour payer les réparations chez Renault.
D'ailleurs, donc,
monsieur Renault,
non,
c'est votre pote.
Il travaille pour les réparations chez Renault. Il se prostitue pour acheter des BD.
C'est vrai. C'est ça. C'est donc, vrai. Je travaille d'ailleurs au Pays de Mirabeau sur la départementale 113.
D'accord.
Promotion. Entre 17h et 20h,
c'est la
happy hour.
C'est
happy hour.
Pour notre splash page, nous avons aussi essayé de faire une sorte de petit dossier un peu improvisé qui va vous parler de la bande dessinée à l'américaine.
Donc un dossier entièrement préparé, ça fait donc des semaines qu'on est dessus avec des interviews, des recherches vraiment en profondeur, on est allé vraiment au fond des choses.
Ne l'écoutez pas, il bluffe.
Tu bluffes, Marconi.
Quoi qu'il en soit, on va d'abord vous faire un petit pitch de la bande dessinée Badass avant d'attaquer l'interview de Bruno Bessadi qui va un peu nous parler de ses méthodes de travail. Et on fera notre chronique de Badass juste après cette interview. Donc Badass, ça nous raconte l'histoire de Dead End, qui est un super vilain, qui a une sorte de pouvoir autour de la chance, on va dire. En gros, ça fait un peu penser au tireur. Il jette un truc, ça rebondit dans tous les sens, ça touche le gars qui veut, ça crée des relations de cause à effet, un peu comme on peut voir dans Destination Finale.
C'est ça.
Et il a toujours un coup de bol. Et en parallèle de la vie d'Eden qui est en train, en gros, de vouloir prendre son indépendance en latant la gueule des géants du crime pour qui il bossait, on va un peu avoir l'histoire de son passé, comment il est devenu Dead End, alors qu'à la base, il n'était qu'un petit loser, bien con déjà, en fait.
C'était un petit loser, mais avec déjà un putain de foutu caractère.
Et un mauvais fond, on va dire, dès le départ. En tout cas, il a vraiment un mauvais fond dès le départ. Hein. Et donc,
Je te tends la main, t'inquiète pas, je mets de l'essence dessus et j'envoie le briquet.
C'est un peu ça. Et donc, ensuite, en parallèle, et bien sûr, on va avoir les super-héros qui vont venir... s'en prendre à lui, super-héros inspiré la plupart du temps de super-héros connus de l'univers beaucoup DC, un petit peu de Marvel, et puis des petits mix au milieu, etc.
Mais que peut-on faire contre la chance ?
C'est scénarisé par Eric Hanna, dessiné par Bruno Bessadi, et nous allons tout de suite écouter Bruno Bessadi nous parler de cette bande dessinée, enregistrement
on
fait.
On fait au contrepoint un super resto à la rue Constantin à Aix-en-Provence. Ils font de la super bouffe, c'est fait totalement maison et c'est excellent et pas cher.
Voilà, et ça cale tellement le ventre qu'après on a du mal sur les interviews et on rame un peu. C'est parti.
Nous sommes avec Bruno Bessadi qui dédicace cet après-midi à la BDRI à Aix-en-Provence. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bruno vient de sortir la bande dessinée Badass, scénarisée par Eric Hanna aux éditions Delcourt, qu'on a lu, qu'on a bien aimé, qu'on va vous critiquer dans l'émission là juste après cette interview. C'est une bande dessinée vachement inspirée de la BD américaine qui lance une nouvelle collection. Est-ce que ça amène des contraintes particulières de se dire ça va lancer une nouvelle collection et ça va être dans le genre BD américaine?
Alors en ce qui concerne la collection, nous quand on a signé le projet, moi je l'ai signé en 2009 et le projet de collection n'existait pas encore, donc on a pas du tout eu de contraintes avec ça. Moi le bouquin je l'ai fini en 2011 et c'est plus tard que j'ai appris que Delcourt allait lancer une collection, donc vis-à-vis de ça j'avais eu aucun souci. Et après les autres contraintes, on va dire que c'est plutôt le nombre de pages, parce que là du coup on est sur un format de 90 pages. Et c'est plus là la contrainte, quoi, la différence avec le format classique de 46 pages. Quoi.
Le fait de déjà avoir un plus gros format, hein, tu doubles le nombre de planches, d'être plus dans un style à l'américaine, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta méthode de travail ?
Est-ce que ça a changé quelque chose ? Disons que là, en fait, moi j'ai toujours été fan de comics, je suis toujours. Et j'ai fait Zan Lederna avec une influence un petit peu comics, alors que là en fait je fais du comics avec une influence franco-belge. Et après le truc que ça change, c'est que j'ai moins de cases par page et j'ai une moyenne de 6 cases, ce qui est plus que le format classique américain du super-héros. Mais c'est la seule différence, c'est ça, c'est le nombre de cases par page, quoi.
Comment est-ce que la rencontre avec Eric Hanna s'est faite ? C'est lui qui est venu te voir, on vous a présenté pour ce projet-là, comment ça s'est passé ?
Alors en fait, c'était assez flatteur pour moi, j'ai reçu un mail de David Chauvel, qui est scénariste et directeur de collection, donc qui est le directeur de collection de Badass et de Comics Fabric, et il m'a envoyé en fait par mail le scénario de Dead End, de Badass, quoi. Et, je l'ai lu avec beaucoup de retard parce que je suis pas très mail, et quand j'ai lu le scénario, j'ai eu le coup de foudre. Parce que faire du comics, ça a toujours été mon rêve. Donc là, j'étais bien content que ça tombe sur moi. Et donc après, j'ai rencontré pour la première fois Eric Hanna à Paris, chez Delcourt, pour signer le contrat. Parce que Eric habite à Caen et moi, j'habite à Marseille. Donc c'est vrai qu'on n'est pas habitué à se croiser très souvent, quoi.
C'est quoi sa méthode de travail niveau scénario, justement ? C'est quelque chose de très dirigiste où il va vraiment te donner chaque case un découpage très précis ? Ou est-ce que tu as beaucoup de liberté pour faire éclater ta mise en page, ce genre de choses-là ?
J'aimerais te répondre les deux. En fait, Eric, c'est vraiment un passionné. Là. C'est aussi ce qui m'a plu dans l'approche de Badass, c'est qu'il a écrit les 4 scénarios d'un coup. Il s'est pas dit, j'écris un tome 1 et j'écrirai le tome 2. Il a vraiment été pris dans son truc. Comme nous, quand on dessine, on va jusqu'au bout de notre dessin, on le finit. Lui, il a fini son scénario, donc il a écrit les 4 tomes d'un coup. Donc pour moi, c'est un confort de travail supplémentaire. Et après, par rapport à sa méthode de travail, c'est assez détaillé, mais ça me laisse beaucoup de champ libre. Donc je peux m'exprimer comme je veux et la collaboration se passe très bien, quoi.
T'as eu un peu de liberté sur le scénario, t'as pu proposer des idées, t'as pu... Bon, j'imagine que tu t'es éclaté avec tout ce qui est design de personnages, mais à côté de ça, toi, est-ce que t'as pu apporter des petits changements, des petites trouvailles à toi ?
Non, pas spécialement, et en même temps, ça m'a pas frustré, parce que moi, j'ai pas de prétention de scénario, et si j'ai accepté le scénario, c'est qu'il me plaisait, donc du coup, j'ai... comme tu disais, j'ai pu apporter des petits détails au niveau des personnages ou des trucs au niveau anecdotique, quoi, parce qu'il y a des trucs qui marchent par écrit, mais qui marchent pas au dessin, donc quand ça marche par le dessin, on est obligé de s'adapter par rapport au dessin plus que par rapport à l'écrit. Et ce que j'ai apporté, c'est vraiment des trucs anecdotiques que Eric et moi sommes les seuls à savoir, quoi, je veux dire. C'est pas... Ma participation à ce niveau-là, elle est vraiment, pour la quatrième fois, anecdotique.
Et tu as eu donc... le scénario complet, c'est-à-dire que tu connais déjà toute l'histoire, ou il t'a même, toi, laissé un petit peu dans le flou par rapport à la suite ?
Ah non, c'était ça fait aussi partie des trucs qui m'ont vraiment motivé à signer, c'est que j'ai lu le tome 1 entier, et après j'ai demandé au directeur de collection, David Chevel, bon, le tome 1 est très bien, est-ce que le tome 2 sera aussi bon ? Tu as déjà lu le pitch, quoi ? Et il me dit, tu veux le lire, le tome 2 ? Je l'ai. J'ai dit, oh, tu déconnes, donc j'ai lu le tome 2 entier. Et après, j'ai dit, bon, j'ai fini le tome 2 qui m'a plu. J'ai dit, le 3, tu l'as pas? Il me fait, si, je l'ai. Je fais, ah, c'est pas vrai. Donc, j'ai lu le tome 3, et après, j'ai dit, le 4, tu l'as pas? Il me fait, oui, je l'ai, le 4, mais tu dis pas, parce qu'il me l'a passé en me disant, tu le dis pas au scénariste. Parce que vu que Eric Hanna est très exigeant, un peu maniaque, il m'a dit, tu le dis pas que je te l'ai passé, parce que c'est pas la version définitive, et il voudrait pas que tu la lises. Donc, ouais, j'ai tout lu d'un coup, et c'est ça aussi qui est quand même pas mal. C'est que pendant que je bossais sur le tome 1, je faisais des designs de personnages pour le tome 4, donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est que les personnages, du coup, pour moi, quoi, c'est des personnages que j'ai pas encore dessinés sur les pages, mais que je connais déjà et que j'ai déjà dessiné sur mes carnets de croquis, quoi.
T'es passé de Zorn et Dirna où t'as appris à dessiner des coupes de chevaux, tu nous avais balancé la dernière fois.
Les coupes de cheveux ?
De chevaux. Ah. De chevaux. Les coupes de cheveux aussi, sans doute. Là, tu es arrivé sur des véhicules, un monde urbain. C'est un gros changement pour toi ? T'es plus à l'aise dans quel univers ?
Moi, je préfère dessiner les chevaux que les véhicules. Parce que je préfère tout ce qui est approche un peu anatomique. Tout ça, là, ça m'intéresse beaucoup plus. Et après, pour tout ce qui est véhicule, je sais pas si je dois le dire, en fait. Mais je me sers d'un outil, en fait, d'un nouvel outil qui s'appelle SketchUp. Et il y a beaucoup d'auteurs BD qui s'en servent, mais qui le disent pas. Donc moi, pour pallier justement au fait que j'aime pas trop dessiner les véhicules, je me sers donc de cet outil qui s'appelle SketchUp.
Ouais, d'ailleurs, tu remercies, tu peux le dire, tu remercies Yann Valéani dans le bouquin sur SketchUp.
Non, je remercie Yann Valéani pour le ketchup, en fait.
Ah, la blague. Au niveau du design de personnages, justement, enfin, moi je pense qu'on a tous des gens qui aiment les super-héros, s'amuser à inventer nos propres super-héros, à travailler des designs. T'as beaucoup de travail dessus, tu t'y prends 40 000 fois, enfin, en plus il y a des inspirations, hein, qui sont flagrantes dessus. Comment est-ce que tu t'y prends ? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps ?
Comme je disais, ça me prend énormément de temps, dans le sens où là je suis en train de dessiner des personnages. Pour le tome 2, pour le tome 3, et vu que j'ai signé en 2009, ça fait depuis déjà 3 ans que je les bosse, donc du coup ça me prend beaucoup de temps. Et le pire, c'est que quand j'arrive sur la page, la plupart du temps je prends pas le design que j'ai travaillé depuis tant d'années et j'improvise sur la page, donc c'est assez idiot, mais c'est comme ça que je procède.
Et au niveau de l'inspiration, c'est moi je suis surtout pour la scène du début avec le lézard. Ton inspiration pour cette scène-là, ça se dirigerait vers quoi, en fait ?
Oula, en fait, j'ai vu que c'est une scène donc qui s'ouvre avec la triade, et ça remonte quand même. Donc je me rappelle plus trop ce que j'avais en tête quand j'ai dessiné cette scène-là. De bout en blanc comme ça, il me vient Jack Burton et les griffes du mandarin au niveau de l'ambiance un peu asiatique, et même dans ce film il y a l'espèce de femme serpent là, qui est derrière un rideau dans une ambiance très enfumée, donc la référence qui me viendrait comme ça spontanément, ça serait ça, quoi. Le film de John Carpenter,
la femme serpent, c'est pas dans c'était dans les griffes du mandarin,
ouais, derrière le rideau là.
C'est pas dans avec Eddie Murphy
Golden Child. Ah oui, c'est peut-être ça, tu as peut-être raison.
Il y a mix des deux, alors.
Il y a le mix des deux, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Et il a quoi, Jack Burton, hein ?
Jack Burton.
Il a une espèce de Yeti, là.
Il y a le mec qui fait des éclairs sur le mandarin.
Il se bat contre un Yeti aussi. Enfin,
Je veux la dague. Donnez-moi la dague.
Là, la BD sort en parallèle d'autres bandes dessinées d'inspiration très américaine. Je pense à HeroCorp, à Geek Academy. Est-ce que tu as un peu suivi ces projets qui sont sortis en parallèle du tien? Et comment est-ce que tu vois justement le fait que d'un coup on a plein de BD françaises qui sortent avec une inspiration très américaine?
En fait, c'est pas les projets que j'ai suivis parce que j'étais pas au courant, mais dès que c'est sorti, je les ai regardés avec beaucoup d'attention, quoi, parce que c'est intéressant, c'est bien parce que c'est une genre de synergie qui je pense va profiter à tout le monde. Et le fait que ça sorte maintenant, j'ai pas trop de choses à dire. Le tome 1, je l'ai fini en 2011 et il était prévu pour septembre 2011. Donc on l'a sorti avec plus de décalage parce que j'avais besoin de dire Nassis à finir. Donc je sais pas, en fait c'est une espèce d'hasard éditorial qui fait que tous les titres sortent en 2013. Et après, pour le fond de mon avis sur la question, je pense que c'est aussi le succès du film Avengers au cinéma, qui rend le comics encore plus populaire au-delà des librairies et qui fait que peut-être il peut y avoir un engouement pour ce genre de bande dessinée, quoi.
Tu as déjà le casting pour l'adaptation cinéma de Badass hein?
Non, pour le héros principal, vu qu'il a un masque, je me suis pas posé la question. Mais pour les autres, non, là j'ai pas d'idée. J'aimerais bien qu'il y ait Lou Ferrigno, en tout cas. Ouais. Ouais, je sais pas, l'acteur de Hulk pour la série télé.
Ça le ferait bien.
Pour le tome 2, une sortie à peu près prévue au niveau date, au niveau...
À peu près en septembre 2013, dans ces eaux-là.
Okay, donc t'as de l'avance au niveau du dessin, quoi.
Ouais, il me reste... j'en suis à la bonne moitié du bouquin.
C'est quoi ton dernier coup de cœur en bande dessinée?
La dernière BD que j'ai acheté, c'est un comics, c'est l'arc là chez Marvel qui s'appelle Fear Itself. Et j'ai acheté ça parce que je suis fan de Stewart Immonen. Donc j'ai acheté, c'est malheureux à dire, mais la plupart des comics, je les lis quand même, je les achète pour le dessin. Et je les consulte plus comme des espèces d'artbook et sources d'inspiration, parce que le Fear Itself, je sais pas si tu l'as lu, mais... ça peut être Bendis qui est au scénario, mais c'est très bas, quoi, quand même, au niveau intensité du scénario. C'est des gentils qui se battent contre des méchants et ça s'arrête là, quoi.
Bendis était plus inspiré avec Immonen sur Ultimate Spider-Man.
Ah oui, je les ai aussi ceux-là, ouais, c'est vrai. Ouais, non, à la rigueur, oui, c'est peut-être légèrement plus intéressant, mais bon, la plupart du temps, des scénarios de comics qui m'ont fait triper. Et ça remonte à très loin, quoi. À part Alan Moore.
Ok, bah merci beaucoup Bruno. On espère te revoir bientôt et on a hâte de lire la suite de Badass chez Delcourt.
Ah bah, merci pour votre intérêt pour mon travail. Bonne continuation et bonjour à tous les auditeurs. Et voilà.
Et nous revoilà, on espère que vous avez apprécié cette interview, en tout cas nous on a bien aimé. Maintenant parlons un peu de la critique de ce Badass. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'un point de vue du scénario? Alors il faut qu'on fasse très attention, parce que Bruno nous a dit à quel point il défonçait la gueule des
oui.
critiques.
Oui.
Et maintenant on a peur, surtout que je crois qu'il sait où on habite, enfin où j'habite. Ouais, et je crois qu'il doit avoir mon adresse dans le fin fond d'un mail ou un truc comme ça. Donc il faut faire gaffe.
Ah, surtout toi, quoi.
Voilà, mais mais quand il m'aura cassé un demi-doigt, je donnerai vos adresses. Donc, qu'avez-vous pensé du scénario, Thio? Messieurs.
Faut que je réponde?
Bah oui.
Ah. Donc un scénario exceptionnel qui n'avait rien à voir avec de la cuisine bas de gamme, des restaurants low cost, vraiment de la cuisine très très fine avec. Bon, ça va, j'essaie de faire de la lèche à Bruno d'après ce qu'il nous a dit sur ce qu'avait...
sans langue de bois.
Non, sans langue de bois, un scénario, voilà, très... Ouais, moi, j'ai trouvé ça très frais comme lecture. C'est péchu, ça m'a un peu rappelé les gunfights au Killer.
Ouais.
Donc avec ce Deadman qui est...
Dead End.
Qui est le mec le plus chanceux du monde, quoi.
Qui est vraiment flure, quand même.
Qui est une vraie raclure.
C'est une grosse raclure, mais il a la classe, quand même.
Mais il a la classe, voilà. Donc, ça se met en place. C'est sympathique parce que tu as,
je trouve que très rapidement, tu commences à avoir de l'empathie pour cette raclure.
Ouais. Bah, en fait, il est devenu... alors, moi, il y a deux trucs qui m'ont fait... je le trouvais classe au début, dans le côté présent. Mais dès que tu vois un peu comment il est dans le passé, ça t'aide peut-être moins à t'y attacher. Tu te dis, bon, s'il crève, c'est quand même un gros con. Non, moi, c'est le côté... Il est devenu le mec... Enfin, il est devenu l'ordure qu'on aurait aimé être quand on était au collège. Le gars qui se permet de faire des trucs horribles, mais tu vois, l'ordure que tout le monde aurait voulu être. Vous l'étiez peut-être, cette ordure-là, déjà.
Oui, mais ceci est un autre débat. En fait, il est le côté non refoulé, c'est-à-dire toutes les mauvaises pensées qu'on pourrait avoir le soir en rentrant du collège ou du lycée avec un tel qui nous a cassé les noix, une telle qui a refusé de faire ci, bref, toutes les hontes, tous les échecs refoulés et qui entraîneraient des espèces d'envie de meurtre ou à défaut de violence. Eh bien, lui, il ne les refoule pas. Lui, il les assouvit, clairement, de manière psychotique, de manière brutale, de manière sadique. Bref, c'est le mauvais côté de tout un chacun, le très mauvais côté de tout un chacun.
C'est à se demander un peu quel est son objectif, en fait, au final. Ce qu'il prévoit de faire, c'est
ce que l'on ne connaît pas.
Et apparemment, le tome 2 va s'intéresser à un autre personnage. Donc, on se demande comment est-ce que ça va se goupiller. Voilà, un autre personnage qui a l'air d'être un enfoiré aussi. D'ailleurs, je pense que le titre nous explique. Hein, on va suivre des personnages qui sont tous des enfoirés. On suit des méchants, quoi. Et il y a un petit côté qui m'a fait penser un peu à The Pro. Je sais pas si vous vous souvenez.
La Pro.
Ouais, La Pro, ouais. Tu te souviens de cette BD de Garth Ennis et Amanda Conner? Qui nous racontait l'histoire d'une mère de famille prostituée qui devenait super-héroïne à cause d'un truc sale tombé du slip d'un extraterrestre. je vous laisse imaginer. Donc, bon, là, c'est un peu moins trash dans ce sens-là, mais ils n'hésitent pas à aller dans le gore. Mais ce côté jouissif, quoi, c'est... On prend un vrai plaisir à voir les trucs horribles que fait ce mec, et c'est ce côté aussi jouissif des trucs en chaîne, quoi, des réactions en chaîne. C'est ce qui est sympa quand tu regardes un Destination Final, c'est la réaction en chaîne qui est complètement débile. Tu rejoues à The Incredible Machine, tu vois.
C'est ça. C'est totalement irréaliste, mais à l'arrivée, ça fonctionne bien, on y prend beaucoup de plaisir. On prend beaucoup de plaisir aussi parce qu'on est tout de suite au cœur de l'action. Autant on alterne les moments de scénario qui racontent sa jeunesse, son enfance, son adolescence. Autant dans le contemporain, dans le moment maintenant, on est tout de suite dans l'action. On ne met pas en place le pourquoi du comment il se retrouve à tel endroit, le pourquoi du comment il va rencontrer telle ou telle personne, quels sont ses liens avec tel ou tel nouveau personnage. On est tout de suite au cœur de l'action. Voilà, on n'y va pas par 35 chemins, on perd pas de temps en discussion ou en préliminaire. On est certes dans un tome 1, certes, du coup, il nous manque des informations, on ne sait pas encore exactement vers où tout ça va aller, mais on est dans le vif du sujet. On est dans de l'action, on prend du plaisir.
C'est très premier degré, très frais, très pas prise de tête. Moi, je me suis éclaté à le lire. Ouais.
Moi, j'ai surtout un gros moment, petite séquence revival avec Firefly. Quand, tu sais, quand il y a le méchant qui dit, ouais, de toute façon, tu sais quoi, on reviendra avec mes potes et on va tous te tuer, on te blam.
Voilà, on a un peu ce côté, effectivement.
Ce côté, tu vas me causer des emmerdes, y a pas de souci, t'es mort. C'est bien, c'est un vrai méchant. C'est un vrai méchant. Un vrai gros méchant.
Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Niveau du dessin, c'est maintenant qu'on prend des risques.
Pas grand chose à redire. Hein. C'est...
ça y est.
C'est juste parfait.
Quoi. Alors, le vrai nom de Dr. Tizak, c'est. Et il habite au.
Non, juste à côté du lycée. C'est juste parfait. Non, écoute, honnêtement, le dessin, c'est dynamique, c'est très cohérent de bout en bout, la mise en page est... Ouais, enfin, je sais pas, c'est pour faire de la lèche, hein, mais moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à y reprocher.
Moi, l'inspiration comique dans le design, dans la mise en page, dans la dynamique, est très flagrante. On voit qu'il a une façon de travailler différente que sur ce qu'il avait fait Zorni Dirna, en tout cas au niveau de la mise en scène. Ça reste très dynamique, hein. Zorni et Dirna l'étaient déjà. Mais on a ce côté péchu, un travail, un découpage qui est bien pensé, qui en jette, des scènes d'action qui sont très bien menées. Après, il n'y a pas grand-chose à dire sur le style graphique. C'est une question de goût, quoi.
Et puis on est bien immergé, je trouve, dans l'ambiance américaine. On baigne dedans.
Voilà. Ça m'aurait pas choqué que ce soit une production américaine. Ça m'aurait pas choqué que ce soit une production américaine.
Exactement,
en fait.
Exactement.
D'un éditeur indé, hein, mais une production américaine, quoi. Voilà. Thio, ajouter quelque chose?
C'est juste.
C'est ça.
J'ai pas grand chose à. Le seul truc, voilà, qui me manque un peu, c'est que le masque de Dead Hunt fait qu'on n'a pas beaucoup d'expression de son visage. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on ait un peu plus d'expressivité au niveau du personnage principal.
Eh ben moi j'aime bien le côté masque en latex du sadique, mais avec le côté de The Mask. Moi je garde en mémoire le masque avec Jim Carrey, quoi. Où il perd, c'est vrai, une partie de l'expressivité au niveau du regard, mais où le reste, les sourcils, la bouche, le sourire, reste malgré tout présent.
Moi, le reproche que j'aurais à faire, c'est que pour le moment, même si on sent que ça va un peu changer avec le temps, dans ce tome-là, tout se passe trop bien.
Ah ben c'est Monsieur Chance, hein.
Voilà, il a pas de problème et.
Quoi qu'il lui arrive, il sait qu'il va s'en sortir.
J'espère qu'il y aura un petit truc en face qui va faire qu'on va avoir une opposition intéressante là, parce que en tant que présentation du personnage, c'est cool, on a passé un moment pas prise de tête, sympa. Le gars, il est trop balèze, il est trop méchant, il est trop fort. Mais on manque un peu de cette opposition dans ce premier tome, même si la fin du tome te montre que ça va peut-être changer rapidement.
Ah bah, c'est-à-dire qu'à force de faire le con, il commence à avoir de plus en plus d'ennemis quand même, le monsieur.
Surtout quand on a l'arrivée de l'AJF.
Oui. L'AJF.
L'American Justice Federation.
Bon, enfin, ils prennent un peu cher quand même, hein, l'AJF ?
Non.
Non.
Pas du tout.
Un peu.
Donc, voilà.
Ah oui, par contre, juste la petite question, c'était quelque chose qu'on n'a pas posé à Bruno. C'est est-ce que le pote de Dead Ends, c'est pas un peu quand même un petit peu Kevin Smith ?
C'est vrai qu'il y a un petit côté Kevin
Smith. Il y a un côté,
côté Kevin Smith.
Qui me dit, ouais, c'est possible.
On aurait dû lui poser la question.
Est-ce que tu penses que c'est le petit parasol ou pare-soleil sur la tête qui te fait penser à ça, ou le Marcel ?
C'est le Marcel sur la plage avec le faux parasol posé sur la tête.
Alors, on rentre dans une nouvelle gamme chez Delcourt, qui s'appelle le Comics Fabric, qui va essayer de publier des bandes dessinées inspirées de BD américaines, au niveau des formats, derrière. Alors, je ne sais pas si Masqué fait partie, c'est quelque chose qui était sorti précédemment de la série, parce que Masqué donnait plus l'approche de prendre les codes américains et de les intégrer dans la bande dessinée européenne. Quelque chose d'un peu différent, mais en tout cas il va y avoir d'autres BD dans ce genre là mais pas que chez Delcourt, on a aussi ça chez d'autres éditeurs. C'est la prochaine BD dont on va parler là juste maintenant. La BD en question, c'est HeroCorp. HeroCorp, on a déjà parlé dans AHS, il me semble, de la série télé qu'on aime beaucoup, la série de Simon Astier, le frère d'Alexandre Astier, le fils de Lionel Astier. On va pas faire toute la famille parce qu'ils sont vraiment beaucoup. Qui est une série qui nous raconte l'histoire de super-héros qui sont en gros dans un village paumé parce qu'ils ont perdu leur pouvoir, qui sont devenus un peu des losers et qui se retrouvent confrontés à des nouveaux grands dangers et de s'en sortir.
Alors, ça, c'est vrai dans la web-série et dans la série TV.
Oui. Non, mais je te parle, je te parle de ce que Hirocorp.
Justement, il parlait de Hirocorp.
Voilà. Ah oui, voilà.
La série.
Mais d'ailleurs, enfin, c'est pas vraiment tous des losers, c'est aussi des fois qu'ils ont juste eu envie de prendre du recul par rapport à leur lourd vécu de héros.
Oui.
Ils prennent un gros recul quand même.
Dans le bled où ils sont, ouais.
Ouais, mais non, mais c'est parce qu'en fait, ils ont vu beaucoup, beaucoup de choses et qu'il faut qu'ils prennent justement un petit peu de.
Oui, oui.
Ils ont été super héros dans une mégapole et que tu te retrouves à fin fond du Larzac. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont recul. Ouais. Ils ont besoin de réfléchir un petit peu sur le sens de la vie. C'est pour ça qu'ils
Autre particularité, ce sont des super héros canadiens qui vivent dans un univers commun avec les super héros américains qu'on connaît de chez Marvel principalement, parce qu'ils y font référence de temps en temps. C'est une série qui se veut principalement humoristique, mais avec un fil conducteur et une intensité dramatique assez costaud en fin de compte.
Qui grimpe.
Qui grimpe. C'est une série avec peu de moyens et qui se démerde pas trop mal avec le peu de moyens qu'elle a, je trouve,
techniquement. D'où le Larzac.
Et c'est une série qui va avoir une saison 3 qui est quasiment finie de tourner, je crois.
Oui, ça va bientôt être diffusé.
Voilà, avec beaucoup beaucoup de guest stars et de gens qui sont devenus connus entre-temps après la série, genre Arnaud de sa mère, par exemple.
Qui cartonne maintenant.
Et qui est monsieur Captain Sport Extrême.
Captain Sport Extrême. Et c'est pas un mec à la ramasse, tu vois. C'est pas une fillette, quoi. Non, mais on se l'a fait, cette descente en canoë sur les chutes du Niagara. Attends, on n'est pas des fillettes, là. Qui en est, les mecs?
On n'est pas des tarlouses.
Donc, la volonté de l'adapter en bande dessinée allait un peu de soi, parce qu'il y avait déjà des éléments de bande dessinée.
Tiens, le Patrick Sébastien du micro à ma gauche.
Je sais pas ce qu'il fait.
Ben, il y en a qui font tourner la serviette, lui, il est en train de nous faire tourner le micro depuis tout à l'heure.
Ah oui, d'accord, il sait que tu pouvais
le petit micro en mousse.
Donc,
merci, tu vois.
Bon, mais je crois qu'on va arrêter cette émission-là, parce que les gens peuvent plus, c'est possible. Donc, la série avait déjà un lien avec la bande dessinée, parce qu'on avait déjà des éléments dessinés dans la série, qui servaient de lien entre les séquences, et qui considéraient que les bandes dessinées qui racontaient les histoires des super-héros étaient, en fait, des archives de la vie de ces héros.
C'est ça, des espèces de petits plans de planches.
Exactement.
Tout à fait.
Les dessins étaient faits par Olivier Perru, si je ne m'abuse,
oui.
Dans la bande dessinée, qui est d'ailleurs le directeur de la collection Soleil French Comic.
C'est chez Soleil. Expliquant cela.
Mais du coup, là, sur le comic, il n'a fait que la couverture.
Oui.
Ce qui est peut-être un petit peu dommage.
Le dessin n'a rien à voir.
Parce que du coup, tu vois la couverture et tu te dis « Ouais, c'est Olivier Perru, c'est lui !» Et en fait,
non,
pas dedans.
Ce qui est pas, enfin, c'est pas mal non plus ce qu'il y a dedans.
Non, c'est pas mal ce qu'il y a dedans. Mais du coup, c'est celui que t'avais vu dans la série. Tu le vois sur la couve et tu le trouves pas dedans. C'est dommage.
C'est vrai que ça a toujours tendance à un petit peu décevoir ces couvertures, mais c'est un procédé très américain aussi. On ne va pas trop leur en vouloir. Donc, pour le coup... Simon Asti a fait appel à un illustrateur qui s'appelle Faya. Je n'arrive pas à trouver son
Marco.
Marco Faya. Putain, c'est balèze. Waouh, où t'as trouvé?
Thio est en place.
Ouais, il est en place.
Ouais, moi, j'ai bossé, moi.
Mais bossé.
Donc, j'avais dit tout à l'heure qu'on avait fait un grand dossier, on était allé en profondeur, on a vraiment tout... voilà, j'ai enquêté sur tout, moi, je suis comme ça.
Pour nous raconter les origines de ces héros quand ils étaient super balèzes, en fait, et surtout l'origine de Hirocorp. La corporation qui dirige les super-héros et qui est menée par McCormack, qui est le boss à l'heure actuelle et qui, là, pour le moment, n'est pas grand-chose.
Qui est le père Astier dans la série.
Voilà. Oui. Et donc, on suit un peu toutes ces origines-là, avec les super-héros, comment ils vivent, et aussi les origines de personnages qui vont être importants dans la série télé derrière. Voilà. Parlons du dessin. Moi, le dessin, je l'ai trouvé super. Je trouve ça beau, je trouve ça bien foutu.
Il est très bien et très américain.
Il y a un côté cartoony, avec, vous savez, des bordures un peu plus épaisses au niveau de l'ancrage, qui passent super bien. C'est très détaillé, il y a des décors assez bien monstrueusement...
De jolis dégradés.
Chiadés, un travail de la couleur intéressant. Un côté cartoony aussi, qui colle assez bien.
Pas tout le temps. Il colle bien, enfin tout colle bien, mais c'est rare quand même les moments cartoony avec des.
Je trouve quand même que dans l'ensemble ça reste assez non, je suis d'accord. C'est quand même un trait assez cartoony, c'est assez drôle. Il n'y a pas de.
ça fait le trait n'est pas super réaliste et je pense qu'il ne le veut pas d'ailleurs.
Oui, c'est du super héros le mec.
Ouais, ouais, voilà, moi je trouve c'est vraiment, c'est efficace. Ça rend bien dans le truc.
Ça envoie pas de la couleur non plus dans tous les sens. Voilà ce que je veux dire.
Ah oui, le travail de la couleur est assez discret, joli comme il faut. Ça n'empêche pas d'avoir des super méchants ridicules, genre Super Frites là.
Ouais. Oui, on a Super Végétaline au milieu. Qui...
Ouais, mais oui, enfin, chacun c'est le pouvoir qu'il peut.
C'est ça. Oui. Bon, plus tard, on aura Captain Sport Extrême, voilà. Captain Shampoing. Donc.
Oui, non, mais qui redevient ensuite Acid Man.
Oui, oui, mais en attendant, il passe par Captain Shampoing, Shampoing doux d'ailleurs, parce que il faut pas quitter les yeux.
Voilà. Donc, en gros, voilà, globalement, dessin très réussi, très péchu. J'avais très très peur. Hein. Moi, souvent dans les adaptations. On a rarement.
C'est pas bâclé. Voilà.
On a clairement, rarement des dessinateurs bâclé à la hauteur. Et là, franchement, c'est un dessinateur de très grande hauteur, je trouve, derrière.
Mais on va y arriver dans la discussion sur le scénario.
Oui.
Y a un décalage entre ce qui a été vu dans la série télé et le rendu esthétique de la BD. Même si le rendu est très beau, très propre et très machin, c'est pas l'idée, moi, que j'avais en tête de ce à quoi ça pouvait ressembler.
Théo, toi ?
Alors, au niveau du scénario, déjà, je voudrais quand même noter, déjà, moi, ce qui m'a surpris et agréablement surpris, c'est déjà que d'une part, ils ont beaucoup de liberté par rapport à la série de départ, mais surtout par rapport aux super-héros américains. On nous présente déjà deux super-héros dont une est enceinte. Quelque part, à quel moment est-ce que des super-héros américains se sont reproduits, quoi ?
Ouais, ils se reproduisent, mais en général, c'est magique dans l'espace, dans le futur, dans le passé.
Oui, voilà. Non, mais voilà. Là,
c'est magique, ouais.
Là, c'est.
Ah, je suis Nathan, je suis votre fils. Ah, tu es mon fils. Oui, oui, je viens du futur. D'accord.
Ouais, mais là, on a montré sa mère enceinte.
Oui,
c'est ça.
Voilà, enfin. Déjà ça, après, au niveau des.
Je crois que Jean Grey, on la voit enceinte, quoi. D'ailleurs, c'est Madeline Pryor qui est enceinte. Oh, je sais plus, c'est trop compliqué, les X-Men.
Vas-y, Matt, tu vas arriver à finir ta phrase.
Ouais, mais c'est pas grave. Donc d'une part ça, après il y a aussi des petites touches d'humour de la part de McCormack. On retrouve des personnages de la série, mais moi ce qui m'a déçu dans un sens, c'est j'ai pas retrouvé l'humour et le côté complètement barré, décalé que tu pouvais avoir, et que tu as toujours d'ailleurs dans la série.
Ça manque de ce côté absurde. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Les discussions qui ont, où c'est que des quiproquos.
Il y a un côté un peu ni queue ni tête à la discussion, un peu Robin des Bois. Ouais.
Bah aussi, il faut dire, c'est un humour qui marche dans la série que parce que ils ont plus leur splendeur d'avant. Et tel que ça racontait dans la série, les aventures qu'ils avaient avant, c'était des aventures de super-héros classiques en fait.
Ouais.
C'est ce qui te montre. Et là, c'est vrai que c'est plus des losers, c'est plus, tout l'humour de HeroCorp vient du fait que les mecs,
oui, ils sont dans le Larzac, oui.
Ils sont devenus nuls, quoi. Voilà, tu disais, t'as Acid Man qui est devenu Shampoing Doux Man, quoi. Je veux dire, c'est ridicule. Et c'est ça qui fait rire. Tandis que, là, tu n'as plus ce décalage-là. Pourtant, il a réussi à mettre un peu de cette touche-là, de cette façon. C'est dans le dialogue que tu le ressens. Hein. Il y a une façon de raconter un dialogue très astier. Hein.
Ouais, mais voilà. C'est comme pour le dessin, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais pas à ça au niveau du dessin. Je m'attendais pas du tout à ça au niveau de l'angle d'attaque du scénario. Alors, effectivement, on se retrouve à l'époque où ils ont encore tout un tas de pouvoirs, à une époque où on est sur la création d'HeroCorp. Bref, c'est un début d'histoire, mais qui n'est pas du tout celui que je pouvais attendre en voyant une BD HeroCorp. Voilà, je m'attendais clairement pas à ça.
D'accord. Moi, j'ai plus été gêné par les références. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références qui ne prennent vraiment de sens que si on a vu la série, en fait. J'ai eu l'impression que c'était vraiment
le
destiné...
Le médaillon de l'ordre...
Non, mais c'était vraiment destiné à un côté un peu... Non, parce que ça peut se suivre dans cet ordre-là aussi, mais moi, ça m'a donné envie de revoir la série pour me dire « Oh putain, il y a une référence. Ah, mais c'est qui, lui, déjà, ce personnage-là » Parce que je l'ai vu il y a longtemps, la série. Donc, c'est qui, déjà, ce personnage-là ? Ah oui, non, mais c'est... Ah, et le maire, et machin chose. Il y a beaucoup de références... Et ça aurait peut-être valu le coup d'avoir une sorte de petit trombinoscope au début pour te rappeler qui est qui par rapport à la série.
C'est pas faux.
Pour pas trop se perdre. Moi, je sais que j'étais un petit peu perdu, tu vois.
Perdu, je pense pas, parce que du coup, c'était à mon avis un peu fait exprès aussi. Que justement, il a pas voulu te montrer directement les personnages que tu retrouvais de la série. Là, je pense par exemple à The Lord.
Oui.
Dès le début, on te le montre pas trop. On essaye. Justement, je pense qu'il joue. Enfin, il a voulu aussi essayer un petit peu de jouer sur ça pour pas qu'on retrouve immédiatement tous les personnages de la série.
Mmh.
Je pense que ça fait aussi partie du truc là. Peut-être pour pas non plus
trop en dévoiler, trop balancer les trucs, etc.
Alors, a priori, c'est mon quatrième a priori en une phrase, je crois. Oui. C'est énorme.
J'ai plein d'a priori, je trouve.
Je suis plein d'a priori, c'est record, c'est comme ça. Ils sont partis sur combien de tomes?
Je ne sais pas.
237.
On avait dit qu'on faisait une recherche approfondie.
Je ne sais pas.
Bah, voilà.
Voilà. Bon, en gros, globalement, une petite déception. On ne retrouve pas exactement le ton de la série, mais je ne pense pas non plus que ce soit ce qui était voulu.
C'est certainement pas ce qui était voulu. Maintenant, est-ce que nous aussi, on n'a pas mis... Les épisodes des Hirocorp, je les ai bouffés les uns à la suite des autres, tout seul, tranquillou, devant ma télé. Est-ce que du coup je n'étais pas un peu en train d'attendre un truc monstrueux et énorme en me disant ça va être trop bien quoi, oui. Alors que finalement c'est peut-être aussi que Hirocorp, le comics, n'a peut-être pas la vocation d'être la continuité ou juste le reflet de la série, mais au contraire à quelque chose qui enrichit l'univers sans pour autant être identique.
C'était une belle phrase, et je trouve que
on s'arrête là-dessus.
Maintenant, je voudrais un petit peu compléter tout ça par rapport à tous ces comics à la française qui arrivent.
Comme Pierre Palmade, tout ça.
Par exemple, il y a la bande dessinée Geek Academy qui est sortie en même temps aussi, qui là, pour le coup, se chope des auteurs assez costauds. Je crois que c'est Phil Brion qui dessine. Des auteurs qui, eux, bossaient dans le comic à la base. On se retrouve encore avec d'autres séries inspirées du super-héros, de la BD américaine, de plus en plus dans la BD française. Et j'ai l'impression qu'on est en train de se retrouver petit à petit avec des labels vraiment... attention, hein, c'est pas vraiment français, on va le mettre dans les trucs américains. Ça vous laisse quoi comme impression? Est-ce qu'à partir du moment où on veut faire du super-héros, tout de suite, il faut qu'on parte dans un délire à l'américaine? Ou est-ce qu'on peut encore réussir à faire des trucs comme ce qu'avait été fait avec la Brigade Chimérique, du super-héros à la française, qui assume une sorte d'historique propre à la BD française, enfin à la littérature populaire de chez nous, quoi?
C'est le genre de situations qui sont toujours compliquées parce que quand on parle de comics, quand on parle de super-héros, on va avoir des images qui nous viennent tout de suite à l'esprit, on va avoir nos stéréotypes. Et malheureusement, ou pas, hein, mais en tout cas, les faits sont que c'est principalement des choses qui sont très américaines. Donc, on va avoir peut-être des productions de qualité, mais qu'on va avoir du mal à rattacher à un univers de super-héros. Ça reste difficile, je trouve. Et puis, en plus, voilà, faire un truc à la Brigade Chimérique, ça demande aussi d'avoir des références vis-à-vis de notre littérature française, européenne, vis-à-vis justement de tout ce qui était héros populaire de l'époque. Et je ne suis pas certain, d'une part, que...
tout le monde les
tous les lecteurs et... puissent avoir, on va dire, ces références là moi clairement je les ai pas. Tout ce qui était héros populaire dans les années 20, 30, 40, 50, tu fais dire certains, tu connais peut-être le nom, tu connais peut-être quelques trucs sur eux, mais bon, sans plus. Malheureusement, je pense qu'on est un petit peu les enfants d'une American culture qui fait que soit on va avoir quelque chose d'un peu éducatif, entre guillemets, comme la Brigade Chimérique, qui va créer, on va dire, une mythologie et créer des personnages européens. Mais a priori, sinon, on va être obligé de se rapprocher de quelque chose d'un peu plus
américains, même si ce sont des héros créés en France, mais qui seront américanisés dans tous les cas, je pense.
Est-ce que vous ne croyez pas aussi que toutes ces séries autour de super-héros à la française, hein, ne viennent pas, on ne retrouve pas un peu ce qui avait été avec le manga? Genre là, il y a eu un film, deux films l'an dernier qui ont vraiment cartonné au box-office, genre Avenger et Batman... et Batman, Dark Knight Rises, mm-hmm. qui ont été des gros cartons, qui ont d'un coup fait que l'image du super-héros est devenue populaire, est redevenue populaire pour tout le monde. X-Men l'avait fait quelques années avant, hein. Mais là, ça y est, c'est une sorte de... Là, pour le coup, on a carrément le super-héros classique, quoi, hein, vraiment, avec du costume de toutes les couleurs et tout, ça peut passer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces éditeurs qui disent « on va essayer... » de surfer sur cette vague-là, comme ils avaient essayé de le faire à une époque avec le manga, on avait pas mal de mangas à la française qui étaient sortis, la plupart se sont cassés la gueule, il n'y en a pas beaucoup, on parlait d'HK, hein. C'est la volonté à la base c'était de faire un peu du manga à la française. Hein. Est-ce que vous ne croyez pas que justement, c'est pas une vague qui va disparaître et qu'au final, de toute façon, ça va être assimilé dans les autres BD et que on parlera plus de bande dessinée, de comics à la française, mais de bande dessinée française avec des super-héros?
Oui, en même temps, est-ce qu'il y a besoin de rentrer dans une case qui porte un nom particulier? Il n'y a pas grande utilité à partir du moment où tu trouves ton public. Maintenant, le public, quand il voit des héros, il est en attente de certains codes. C'est bien malgré soi, on va attendre une illustration d'un pouvoir d'une telle façon, un costume de super-héros, à minima un petit masque sur les yeux, une petite cape par-ci ou un petit gadget que tu peux lancer par-là. On reste toujours sur ce genre de code-là. Alors, il faut, si on veut renouveler le genre, et ce serait peut-être pas du luxe pour le coup, c'est faire des productions maintenant, mais qui sont censés servir de référence pour peut-être des productions de dans 10, 15 ou 20 ans.
Ouais. Ouais, non, je suis d'accord, non, mais parce que j'avais aussi, j'étais en train de cheminer dans mon idée aussi par rapport à ce que tu disais. Les comics là, dont on a parlé aujourd'hui, ne sont pas des comics qui ont été faits il y a 6 mois, quoi. Donc,
oui, ça fait 2 ans qu'ils sont bossés dessus.
Voilà, ça fait déjà, pour Badass, on sait que Bruno, ça fait déjà
plus de 2 ans.
Plus de 2 ans qu'il bosse dessus. Donc, HeroCorp, je pense que c'est peut-être plus récent, mais ça a été fait peut-être plus rapidement. Mais c'est pas des projets qui se sont montés en 2 jours, quoi. Donc, est-ce que c'est la mode du temps? Peut-être, parce qu'on va dire que les personnages des Encapés sont revenus un peu à la mode depuis le retour de Batman, des X-Men. Maintenant, écoute, j'ai vu que c'est la crise, autant que nos dessinateurs et scénaristes français fassent quelque chose qui marche pour que ça leur permette de bouffer et qu'ils nous fassent des histoires qui nous plaisent, quoi. Après, le reste, si ça doit être du comics en ce moment, ce sera du comics. Et puis si ça sera autre chose demain, on bouffera autre chose, quoi.
Si ça peut éviter de faire 53 reboots des mêmes héros, c'est pas plus mal, hein.
Au moins, ces héros-là, ils sont nouveaux. Ils sont les nôtres.
Ouais.
Avec une bonne baguette.
Carte blanche à... Normalement, vous auriez dû entendre juste là, tout de suite, là, le jingle des news de Merton, mais on a changé la formule. Maintenant, cette rubrique s'appelle Carte blanche. Alors, pourquoi carte blanche? On s'est rendu compte que dans le One AI Club, il y avait 3 mots. 2 qui n'étaient que le délire narcissique d'un de ses créateurs, et le 3e qui avait un sens pour tout le monde, c'est le côté club. C'est-à-dire qu'on se réunit tous, on se prend par la main, on fait le pouvoir des 3 ou de je ne sais combien, et pouf, on parle de trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme de la BD par exemple. Et donc la carte blanche, c'est pour permettre à tout le monde, auditeur, auteur, éditeur, de venir nous parler de choses qui les ont fait percuter, que ce soit une super bonne BD, que ce soit une actu intéressante, que ce soit un truc qu'ils ont détesté, poussé un coup de gueule. On vous offre 15-20 minutes d'antenne pour pouvoir le faire et nous dire ce que vous en avez pensé. Bien sûr, si vous êtes éditeur ou auteur, venez pas nous dire que vos bouquins sont super bien. On sait que vos propres bouquins sont forcément les meilleurs du monde, mais c'est un peu comme vos enfants, c'est les plus beaux. Donc on va pas en parler parce qu'après c'est vite chiant. Et donc Merton, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Il fait plus de news, non, parce que les news, en fait, on les fait dans les Bubble News, qui sont vachement bien, qui sont toutes les semaines et donc beaucoup plus pertinentes. Et donc Merton, en fait, il va nous parler de ce qu'il veut. Ça va être un peu une fois par mois, ou peut-être moins si un jour il en a marre, ou peut-être plus si un jour il a un truc super important à nous dire. Et donc je dis déjà Bonjour Merton.
Hello, hello, ça va bien ?
Oui, ça va bien, ça va bien. On est en train de tester vraiment une nouvelle formule. J'espère qu'on aura plein de volontaires pour participer. Pas trop non plus, parce que sinon on ne saura pas quoi en faire, mais bon, ça peut être assez sympathique. Et toi, ce soir, donc, bah, tu vas commencer par nous parler de quoi ?
Alors, ben moi, la première chose en fait que j'ai vue là, en surfant un peu, c'est Aurélie Filippetti qui a annoncé par un communiqué la semaine dernière que ça y est, il y avait enfin une solution aux discussions qu'il y avait eu entre les auteurs et les éditeurs sur le contrat d'édition. Alors, ça faisait quand même un sacré moment hein, qui bossait sur ce sujet-là, hein, auteur et éditeur.
Rappelle un peu la problématique du contrat d'édition.
Ben, en fait, le contrat d'édition, c'est vraiment ce qui va lier l'auteur à l'éditeur quand ils font un bouquin, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça va être comment va être payée la personne, comment le bouquin va être mis en avant, comment il va être réédité si on n'en trouve plus, etc. Et c'est aussi, en gros, c'est toutes les garanties contractuelles entre l'auteur et l'éditeur.
D'accord.
Et les auteurs trouvaient que quand même, ils étaient carrément pas protégés en fait face aux gros éditeurs.
C'est-à-dire que l'éditeur faisait ce qu'il voulait ou il y avait des règles trop laxistes ?
L'éditeur, je dirais pas qu'il faisait ce qu'il voulait. Après, ça dépend des auteurs aussi. Hein. Mais c'est sûr que un petit jeune qui débute, voilà, c'est pas comme un Larsenet par exemple. Hein. C'est évident, c'est des choses différentes.
Je crois qu'il y avait aussi la problématique des droits numériques, de la gestion des droits numériques, qui était toute nouvelle et qui n'était pas prévue jusqu'ici.
Voilà. Bon, alors là-dessus, ça avance pas encore trop parce que la ministre a confié à la mission Lescure. La mission de formuler des propositions d'évolution là-dessus. Donc, ça avance pas encore trop de ce côté-là. Mais en tout cas, une des avancées dont on peut déjà parler, c'est qu'apparemment, il y aurait des vrais contrôles sur l'exploitation régulière de chaque œuvre, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'éditeur, quand il n'y a plus de bouquins en vente, il est tenu de rééditer le livre, en fait. Vu que c'est de ça que vit l'auteur derrière, vu qu'ils vivent que de leur droit d'auteur, en fait. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait quand même, un auteur avait quand même très peu les moyens de savoir où en étaient les ventes de son bouquin. Est-ce que son bouquin était vraiment en vente et où et comment, enfin, c'était le genre de choses qui savaient pas trop, en fait. Les éditeurs donnaient pas forcément toujours toutes les informations, donc apparemment ça va être durci du côté des éditeurs et l'auteur va avoir un plus grand droit de contrôle, sachant que si l'éditeur arrête d'exploiter l'œuvre, tous les droits reviennent immédiatement à l'auteur, donc ça peut être vraiment bien pour que l'auteur puisse en faire après autre chose aussi de son côté, hein. Ça peut être sous forme numérique ou même différemment, donc ça peut être vachement bien. Quoi qu'il arrive, on aura beaucoup plus d'informations pendant le salon du livre, où là il va y avoir vraiment une présentation de ce qui va se faire.
Donc ouais, là les informations on les a eues, on va dire.
Non, là les informations pour le moment, mais il se réserve d'autres informations parce que le SNAC a déjà dit qu'il ferait en gros toute une présentation de vraiment plus détaillée de ce nouveau contrat, en fait.
Voilà, donc ça a été donné ce week-end, mais au moment où on enregistre, on ne sait pas encore.
Et c'est ça, exactement. Ah oui, c'est pour ça, merde.
Et oui, tu sais, moi je suis dans la transparence.
C'est, exactement. Donc en fait, normalement, on devrait en savoir plus quand vous écouterez ce podcast et on en parlera la prochaine fois, du coup.
Bah oui. En tout cas, ça a l'air d'être une belle avancée. Les auteurs ont l'air contents des premiers retours que tu as pu entendre hein.
Les auteurs, ils ont déjà tellement pris cher ces dernières années que maintenant ils attendent des garanties. Je pense qu'ils en sont à un stade où les mots, etc., suffisent plus, quoi. Là, ça va prendre encore du temps. Hein. C'est-à-dire que là, il y a les annonces. Ensuite, va falloir que ça passe, que le ministère fasse un texte, que ça passe à l'Assemblée. Bon, voilà, c'est
mais grâce à ça. Grâce à ça, ils vont pouvoir s'acheter un paquet de knackis en plus par mois, ça leur fera de la viande.
Ouais. Après, quelle viande, ça, on ne sait pas, mais ça leur fera un peu de viande.
Tu sais ce qu'il y a dans les knackis ?
Non, mais personne ne sait. Donc, en tout cas, je pense qu'ils sont tous assez vigilants là-dessus, et on le sera aussi, hein, on continuera à regarder un peu ça de très près pour voir si leurs conditions de vie évoluent, et ce ne serait vraiment pas un mal.
L'autre gros truc dont tu veux nous parler, c'est Marvel.
Ouais, alors ça y est, Marvel se lance violemment dans le numérique parce qu'ils ont décidé de lancer leur propre service de comics illimité à... Alors c'est 9,99$ par mois, donc autour de 8€. C'est-à-dire que bah, si vous avez la chance ou la pas chance, hein, c'est selon d'avoir un iPhone, il y a une application dédiée pour ça. Pour ceux qui sont sur Android, là, pour le coup, ce sera une version HTML5 du service. Mais en tout cas, il y a 13 000 titres qui sont disponibles sur le store donc, de la Marvel. Disponibles bah, quand on veut, comme on veut. Il suffit de payer son abonnement mensuel. Sachant que si on prend un abonnement pour un an, c'est même moins de $60. Quoi.
Oui, c'est donc, ce que j'avais 47 vu, c'est un euros. Truc de malade.
Donc, et on peut aussi télécharger et conserver en fait sur sa tablette jusqu'à 6 titres en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'on récupère 6 titres, on peut les lire un peu n'importe où, on les supprime, on en récupère d'autres en ligne et on peut aussi les avoir hors connexion, quoi. Donc, bah, c'est un gros pavé dans la mare, quoi. Hein. Là, pour une fois, je dirais, les éditeurs reprennent les rênes de ce côté-là, quoi.
Bon, en gros, ils ont fait le Spotify du comics.
Ouais, bah exactement. Alors, avec le problème que bah, ce sera que des titres Marvel, quoi. Si on veut aller chez DC, bah, est-ce que DC va faire pareil et du coup, il faudra avoir deux abonnements. Voilà, ça, c'est un peu moins cool que sur un Spotify ou un Netflix.
Et on pourrait aller encore plus loin, hein, même si ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que les licences qu'a pu avoir Marvel à un moment et qu'ils ont perdu entre-temps, ils auront le droit de les mettre à la consultation? Parce que là, ce n'est plus de la vente, c'est de la consultation. Bon là ils ont récupéré les droits de Marvel, de Star Wars je pense, Marvel, ou si c'est pas fait ça ne saurait tarder, mais leurs vieux titres Star Wars, est-ce qu'ils vont avoir le droit de les publier?
Bah ça c'est une bonne question. De toute façon ils promettent que le store va s'étendre, mais bon, commencer déjà avec 13 000 titres, ça laisse quand même de quoi faire, hein. Il y a quand même de la lecture avant d'avoir tout épuisé, et du coup enfin bah va falloir voir un peu comment ça évolue ici aussi. Pour le coup, en plus ils ont fait une offre de lancement, ils ont offert 700 comics gratuitement, ils ont fait péter les serveurs de Comixology. Bref, là en ce moment ils vont à fond sur le numérique.
Quoi, c'est toujours le service Comixology quand même.
À côté, ouais. En fait, ça empêche pas.
C'est-à-dire que parce que je sais que Comixology a développé l'appli Marvel en fait.
Ouais, c'est ça. Alors. Ok. Mais ils continuent aussi sur Comixology, enfin de l'autre côté quoi. Parce que bon, ça doit pas être exactement les mêmes choses, parce que là c'est une appli dédiée en fait. Hein, parce
que bah, moi, coup, ce qui m'effraie avec ça, c'est que si tu prends un Spotify ou un Netflix, même si on ne l'a pas encore en France, là, tu as des offres qui sont globales. Et tu vas avoir un diffuseur qui va faire appel à des éditeurs qui ont peut-être des parts dans la boîte. Hein, mais en gros, bah, sur Spotify, tu vas trouver plein d'éditeurs différents de musique. Là, qu'il ne fasse qu'un truc Marvel, si ça veut dire que si j'aime Marvel, mais que je veux aussi lire un peu de DC et un peu les indés, etc., si tout le monde prend le même modèle, il va falloir que je m'abonne à chacun. Ça va faire une somme phénoménale, quoi.
C'est ça. Mais c'est-à-dire que bah, quand on voit comment ça se passe en musique, hein, iTunes a foutu les maisons de disques à genoux, hein, en disant maintenant c'est nos tarifs, c'est nous qui, enfin, ouais, ils les tiennent par les couilles. Faut dire ce qu'il y a. Et peut-être que Marvel a vu ça et s'est dit, je vais pas me laisser tenir par les couilles par un éditeur tiers, quoi. Enfin, donc ils ont préféré attaquer en premier. C'est sûrement bien pour eux, mais comme tu le dis, c'est sûrement quand même moins bien pour le consommateur, même si pour le coup là bah, tu as quand même accès à 13 000 titres pour 8€. Quand il va falloir se poser la question de est-ce que je vais chez Marvel, est-ce que je vais chez DC, ou comme tu dis, est-ce que je vais chez les indés, ça va commencer à faire quand même une petite somme à la fin du mois.
Reste un point quand même positif et qu'il faut souligner, c'est que tu peux t'y abonner de la France, tandis que par exemple une offre Netflix, tu ne peux pas le faire de la France, tu es bloqué.
C'est ça. Bon, sauf à avoir. Non, tu peux pas, même avec un VPN ou un truc comme
Si,
ça.
tu vas pouvoir, mais il faut tricher, c'est compliqué, c'est chiant.
C'est ça.
Tandis que là, Marvel, bah, si tu veux te lire le dernier Spider-Man qui n'est même pas encore sorti en France, bah, tu peux.
Mais ça pose aussi des questions sur, sur les éditeurs, même papier en France. Enfin, voilà, parce que ceux qui suivent vraiment les séries directement d'Amérique, bon, ils le font, ça peut être en Scantrad ou un truc comme ça qui existe quand même pas mal. Et qui achètent parfois derrière, si tu as une appli qui est vraiment bien, qui est vraiment top, où ça se met à jour automatiquement, ça va peut-être faire mal aussi aux éditeurs à licence dans le coin, quoi.
Ouais, bah on
et
verra
aux libraires.
En tout cas, moi, c'est vrai que je trouve qu'ils ont mis un beau pavé dans la mer. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont être pleins à suivre et qu'on retrouvera ce genre de retombées-là aussi chez d'autres distributeurs qui pourront peut-être proposer des modèles différents, mais avec des tarifs toujours aussi intéressants.
C'est ça. Et puis, voilà, essayer de faire aussi. Bon, parce que là, c'est encore une fois. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est que c'est encore du scan de BD à gogo, alors qu'on pourrait aussi faire d'autres choses avec le numérique. Et ce serait bien qu'ils s'y lancent, quoi. Mais bon, s'ils se lancent d'abord là-dedans, on peut espérer que, voilà, qu'ils fassent aussi plein de belles choses autour sur leur prochain titre.
Voilà. Ok, ben merci de nous avoir parlé de tout ça, Merton. Merci pour ta première carte blanche qui est plutôt sympathique. J'espère que ça nous parlera encore de plein de sujets tout aussi intéressants le mois prochain. Je te dis à très bientôt. Ciao.
Ciao, ciao. Online.
Je vais vous parler d'un site où il n'y a pas vraiment de bande dessinée. Ce n'est pas vraiment mon habitude. En général, dans l'online, je ne parle que de bande dessinée en ligne. Je pense que je vais le faire de plus en plus, de vous parler de ces sites qui traitent de la bande dessinée de façon intéressante. Là, je vais vous parler du Zouave Interplanétaire. Alors, le zouaveinterplanétaire.blogspot.fr, avec des tirés entre chaque mot. C'est un site d'analyse de planches de bande dessinée. Donc, l'auteur s'amuse à prendre des planches de bande dessinée et à analyser leur structure, comment elles sont construites, comment est-ce qu'elles fonctionnent, et essayer de comprendre les intentions de l'auteur, la façon dont il a mis en place les choses et pourquoi est-ce qu'il les a mis en place de cette façon-là. Ce qui est assez sympa sur ce site, c'est que le ton n'est pas, comment dire, on ne se retrouve pas dans un ton universitaire avec le gars un peu chiant qui va nous dire « Oui, tu comprends la dialectique de l'image du méchant magnétin. » Il a une façon d'écrire assez sympa, assez fun, assez drôle. En plus, il parle... Bon, alors ça reste souvent des classiques, hein. Il va nous faire du Jacobs, il va nous faire du Fred, il va nous faire des trucs qu'on retrouve un peu de la vieille BD. C'est rarement des trucs récents. On va avoir du Giro, enfin... Vraiment des trucs bien cool. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette façon qu'il a de découper, d'analyser, d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces bandes dessinées, ce qu'ont voulu dire ces maîtres, et puis ça nous permet aussi de voir des choses qu'on n'aurait pas forcément vues dans une planche, et de se rendre compte que, ah ouais, c'est vrai que ce détail-là, peut-être que le mec, il a pas fait ça par hasard, quoi. Il a voulu dire un truc avec, et rendre la planche parfois encore plus exceptionnelle que ce qu'on le pensait déjà. Voilà, donc c'est le Zouave Interplanétaire, c'est vraiment très très sympa, très très intéressant, érudit sans être chiant. Donc je vous recommande d'aller y jeter un œil si vous vous intéressez un peu à comment fonctionne une bande dessinée.
Hors sujet.
Et pour le hors sujet, Tizak et Thio qui vont nous parler donc de l'énergétique, focus numérique, machin chose.
Oui, alors en dehors de bien aimer la bande dessinée, on fait un peu d'autres choses et on fait notamment un petit peu de photographie, en tout cas on essaye. Et donc histoire de se former, d'apprendre des choses, on a décidé de se donner des devoirs de vacances toute l'année, parce que pour nous les vacances c'est toute l'année.
Oh, ces instincts.
Alors là c'est bon, vas-y. Allez, surtout avec le cliché en ce moment, ça va être assez sympa à dire. Ça.
Ah, le mot cliché bien placé pour la rubrique, Thio, bien placé. Donc il y a le site Focus Numérique qui organise un concours de photographie.
Un challenge photo
qui fonctionne du 15 au 15 de chaque mois avec donc pendant un mois complet une thématique à respecter. Et au bout du compte, il faut envoyer, enfin on peut envoyer une photo sur le thème qui a été décidé par le site. Et donc on s'organise autour de toutes ces photos récoltées un concours. Alors c'est pas nous en tant que participants qui décidons hein, au niveau des votes, c'est un jury de photographes semi-pro qui votent. Mais à l'arrivée, ben ça, enfin personnellement je le fais pas forcément pour remporter le prix dans une catégorie ou autre, mais simplement avoir une thématique de travail.
Alors le premier challenge c'était photo en noir et blanc, le deuxième c'était
paysages en noir et blanc,
le deuxième c'était lumière de fête, après c'était contre-jour et là actuellement c'est jeu de profondeur de champ. Voilà, et à chaque fois donc ces thématiques bien modestement nous ont obligés un petit peu à essayer de réfléchir à la photo, à la compo, à la lumière, à essayer ensuite de se dire bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, déjà qu'est-ce que j'ai envie de prendre en photo pour essayer de bosser ça, donc et voilà, mais ça permet de se remettre un peu en question sur sa photo et essayer de progresser un petit peu là-dessus, ce qui est pas toujours évident quand on est seul avec son appareil, et de faire des trucs qui sont pas mal. Et voilà. En plus, du coup, de le faire à plusieurs, ça permet un peu de confronter les idées et d'avoir. Des fois, voilà, on se dit, ouais, celle-là, elle est bien. Et puis finalement, la personne qui voit la photo, fait, ouais, bof.
Et elle va en préférer une autre.
Était pourrie, quoi. Voilà. Ça, c'est les discussions que j'ai eues avec ma femme.
Un truc à gagner
Ouais, tu gagnes des bons d'achat sur
Miss Numérique.
Sur Miss Numérique.
D'accord, oh, le truc, un petit concours.
Donc voilà, les trois premiers pour chaque catégorie reçoivent des chèques cadeaux, sachant qu'à la fin il y a quand même un prix spécial du jury, on va dire, qui sera
organisé. Il y a un prix du public aussi pour ceux qui sont arrivés
plusieurs fois bien classés. En fait, les classements
dans le trio de tête, je crois.
Voilà, les classements dans chaque catégorie sont cumulés. Et par exemple, si on arrive quatrième, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, on gagne rien. Sauf qu'il y en a un qui pourra faire qu'une seule catégorie, arriver premier et gagner un truc. Et en fait, les classements sont cumulés tout au long de l'année. Et à l'arrivée, celui qui sera le mieux classé sur l'ensemble du concours, voilà. Le plus régulier exactement sur l'ensemble du concours, le plus polyvalent finalement, sera lui aussi récompensé. Donc c'est pas mal, c'est une belle incitation. C'est totalement gratuit au niveau de l'inscription. La seule limitation réside dans le fait qu'on n'envoie qu'une seule photo par nom. Alors après, c'est sûr, on peut toujours créer 53 mails et 53 noms, et voilà. Mais c'est pas du tout dans cet esprit-là que
c'est dommage pour le classement cumulatif.
Voilà, mais bon, après, chacun fait comme il le sent. Mais voilà, c'est une jolie initiative, c'est de l'auto-formation à moindre frais. Ça incite, si on veut vraiment se pencher sur telle ou telle thématique qui nous plaît un petit peu plus, à se renseigner sur internet, les forums regorgent d'informations.
Alors, surtout en plus que Focus Numérique, il y a quand même déjà aussi pas mal de reportages, de petites explications, oui, sur certains types de photos, comment les prendre, sur quoi on doit jouer, sur l'ouverture, sur la retouche de photos.
Enfin,
aussi
le site est bon,
le site, oui, vraiment est intéressant parce qu'il apporte pas mal de réponses, tout en restant quand même, je trouve, dans de la vulgarisation, parce qu'on n'est pas sur
c'est accessible, oui.
C'est pas un discours vraiment, enfin, je dirais, voilà, de haut vol où il faut avoir un vocabulaire ultra précis et bien comprendre tout ce qui est dit.
Le seul regret que je puisse avoir, c'est que sur les trois premières catégories qui ont déjà été, qui sont déjà terminées, pour lesquelles les votes ont été réalisés, je trouve que les photos qui sont choisies sont ultra, ultra, ultra retouchées. C'est le seul regret que j'ai jusqu'à présent sur ce concours-là, c'est que finalement, peut-être que notre évaluation elle est un petit peu faussée et que leurs critères de choix prend un peu trop en compte l'utilisation de la retouche photo. Finalement, on peut prendre une photo très moyenne avec un matériel correct et à l'aide d'un petit Photoshop ou d'un petit Lightroom.
Ouais, tu mets des lens flares et puis ouais, tu fais des bordures.
C'est juste hallucinant les retouches photos. Ouais, donc
il y en a certaines qui sont, enfin, tu sens bien que la photo ne peut pas être réelle.
Ah non, c'est juste irréel.
C'est pas possible. Mais après bon, voilà, c'est clair que toutes elles claquent. Hein.
Ok.
J'aurais bien aimé l'apprendre aussi.
Il y a un forum. Il y a un forum où les gens montrent tout ce qu'ils ont fait, etc. Ou c'est...
Alors, non. Non, ça manque. C'est dommage parce que moi, du coup, j'aurais bien aimé qu'ils mettent une sorte. En place une sorte de galerie sur justement tout, toutes les photos. Photos, ouais. Parce que bon, je crois que sur le premier concours, il y avait 400 photos. Enfin, pour le paysage en noir et blanc. Pour le deuxième projet, c'était Lumière de fête. Ils avaient eu environ 200 photos. Donc, en tout, voilà, ça fait pas non plus des grosses galeries à faire. Les photos sont pas très lourdes. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de voir un peu le travail, voilà, de tous les amateurs, de tous ceux qui ont participé pour avoir peut-être des trucs un peu surprenants, voir ce qu'on...
Oui, puis échanger, faire des retours.
Ouais, exactement, ouais.
Un peu de collaboratif. Ok, merci, ça a l'air très intéressant tout ça. Et puis tiens, à l'occasion, peut-être que je pourrais mettre certaines de vos photos pour illustrer les articles.
Ouh.
Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Sachez que cette émission n'a pas été faite sans risque.
En live différé, sous tonnerre, vent, foudre, pluie.
Et l'onduleur qui a failli griller et qui s'est mis en défaut quand même, avec le fichier d'enregistrement pas enregistré. Enfin, le genre de truc super rigolo.
Tout ça,
le genre
de 15 secondes de la fin. Le genre de truc qui fait qu'en fait, d'un coup, pendant 3 secondes, il y a eu un silence total dans la pièce. Et on regardait tous l'ordinateur avec la petite goutte de sueur.
Oui, parce que quand toutes les lumières s'éteignent pendant une demi-seconde et que tout se rallume,
sauf l'ordinateur. Là, ça fait mal.
Quand on appuie sur le petit bouton, l'ordinateur ne redémarre pas.
Oui, là, ça fait très, 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 très,
ça
très,
fait très, très peur. Quand il est presque 1h30 du mat et qu'on a qu'une envie, c'est d'aller se coucher et qu'on se dit, mon Dieu, ça n'a pas enregistré l'émission, il va falloir tout refaire.
En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On espère vous retrouver sur le site, vous laisser des commentaires.
Plein
sur
de commentaires.
iTunes, Facebook et sur Twitter.
Ouais, Oberon1370, c'est dans la place. Oberon1370, je répète.
Je suis sur Twitter, je suis rentré voilà. Comme de plein pied dans le 21e siècle.
Thio se prend pour un petit oiseau bleu.
Oui, et nous allons pouvoir tweeter ensemble, Thio.
Main dans la main.
Sur la même branche.
Ça va être mignon. Merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours. À très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.
Bye, bye.
Bla 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 bla
bla bla bla bla bla biblel.
Bla 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 biblel. Ok, c'est bon, le test est valide, tu peux y aller. Le test est valide.
Nous, on rit pas, on hurle.
Non mais tu sais que t'enregistres au calme.